Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans le podcast de Gameblog, le podcast hebdomadaire de la rédaction de Gameblog.fr. Aujourd'hui, 162e émission, et oui, déjà, une émission qui se déroule au mois de décembre, première émission du mois de décembre, qui sous-entend bilan du mois précédent, en l'occurrence du mois de novembre 2010. Un mois de novembre absolument stratosphérique, célesto-cosmique, gorgé d'actualités chaudes bouillantes, de chiffres incroyablissimes, et tout ça, eh bien, sous la houlette de titres comme Gran Turismo 5, dont vous avez beaucoup entendu parler, on le sait, mais qui a intéressé beaucoup de personnes, on reviendra dessus, de Call of Duty Black Ops aussi, de Assassin's Creed Brotherhood et d'autres titres. Et justement, vous l'avez entendu peut-être furtivement, pour nous parler, pour nous accompagner dans ce podcast du récap du mois de novembre 2010, eh bien, nous avons un bel invité. Il s'agit du réalisateur de plein écran, du chef d'orchestre du LCI Game Club.
Bonjour.
Guillaume Delalande. Ça va, Guillaume ?
Bonjour à tous. Très bien. Ça va. Il est un peu tôt, mais ça va.
Mais tu as fait
du thé, tout va bien, d'ailleurs. Voilà.
Une petite rasade de thé.
C'est l'avantage de la caméra, hein. C'est comme vous pouvez voir quand on boit du thé.
C'est ça. Bon, tu vas nous accompagner. Tu avais été l'un des. Parmi les premiers invités des podcasts de Gameblog. On avait.
Il y a
quelques temps.
La table à repasser, là. C'est...
Effectivement, mais je sais que tu vas être un bon guide avec nous sur ce. Pour repasser au crible le mois de novembre, parce que tu es parmi. Je crois, tu as eu le saut du premier fan d'Assassin's Creed en France.
Pour être honnête, pas du premier, parce que je m'y suis vraiment mis à partir du deuxième, ouais. Que j'ai vraiment retourné, je dois le dire, et j'étais totalement attrapé par la mythologie, par l'histoire, et ça fait un an que j'attendais la suite, et là je suis comme un malade, et je suis enfin rassasié, j'ai ma dose.
Et ben on va voir avec toi si Assassin's Creed Brotherhood n'est qu'une simple suite pour les fans, ou si ça va chercher un petit peu plus loin. Il y a aussi Julo, hein, qui sera avec nous et qui,
oui,
lui aussi aime particulièrement.
Bah moi j'ai eu la chance de pas attendre un an comme toi, parce qu'en fait je viens de finir Assassin's Creed 2, donc je l'ai enlevé de ma Xbox et j'ai mis Brotherhood juste derrière, j'ai enchaîné, voilà, c'était génial.
Avec Traz, on parlera bien évidemment aussi du retour de l'actualité avec les coups de cœur, les coups de gueule. Et vous verrez qu'il y en a des beaux et des gratinés, hein, ce mois-ci. Et on parlera rapidement aussi, rassurez-vous, pour ceux qui ont eu l'impression d'avoir un trop-plein de Gran Turismo 5. Mais mine de rien, c'est quand même l'événement du mois de novembre.
Non. Oui, évidemment, oui. Je crois que tout le monde aura compris que c'est le jeu qu'on a mis en avant sur Gameblog depuis quelques semaines déjà.
Mais qui effectivement...
tellement attendu aussi,
c'est ça,
ouais. Mérite.
1,8 million de ventes en deux jours.
En deux jours, ça
montre un petit peu quand même l'attente. Hein. Et puis Raon, avec toi, on reviendra aussi sur l'actualité avec des petites choses qui se passent du côté du PC ou de licences historiques PC qui arrivent du côté de la console. Je pense à Diablo 3 par exemple.
Peut-être, effectivement.
Voilà. Eh bien messieurs, on est parti pour cette 162e émission des podcasts de Gameblog. Et on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule, la tradition. Et d'ailleurs, on va commencer avec toi, Raon. Un coup de cœur du côté des jeux pas chers et sans DRM. On parle de The Witcher 2, par exemple, mais il y en a d'autres.
Alors, mais ce que j'ai surtout retenu, c'est effectivement, il y a des gros problèmes sur PC avec les DRM. On en a fait pas mal de news. Les éditeurs essayent de protéger leurs jeux pour éviter le piratage. Et à côté de ça, il y a The Witcher 2 qui va être a priori quand même un gros jeu en tous les cas. On verra s'il sera aussi bien que ce qu'on attend, mais qui est développé en Pologne par CD Projekt et qui est déjà disponible en précommande sur leur site. En version dématérialisée, donc sans aucune DRM, donc aucune protection quelle qu'elle soit, et le développeur en plus le proposera à
49
c'est 49€, 45€ si tu le précommandes, donc c'est un tarif assez raisonnable pour un jeu de ce calibre, voilà. Et ils expliquent eux, et c'est parmi les rares à dire ça, que ça les intéresse pas d'emmerder les utilisateurs habituels qui eux sont des gens honnêtes et qui vont être la plupart du temps les premiers inconforté par les DRM en question, puisque les pirates ils s'en foutent un peu. Donc eux ils balancent leur jeu sans DRM, donc déjà ça c'est plutôt cool. Et ils expliquent que non, s'il y a des piratages, eux ils vont réinvestir l'argent qu'ils auraient dépensé pour faire des DRM qui ne servent à rien dans des choses un peu plus type légal, avec des boîtes qui vont chercher qui télécharge, etc., et qui vont s'appuyer sur les lois des pays, des différents pays où le jeu sera commercialisé, pour aller chercher directement les gens qui piratent et leur en balancer des lettres du genre, bah écoute Coco, t'as piraté mon jeu, maintenant tu vas payer une amende. Ouais. Et donc voilà, c'est plutôt bien. Je trouve ça intelligent et j'espère du coup, surtout que le jeu sera moins piraté, ou bon, mais j'en doute un peu. J'ai pas grand espoir qu'il soit moins piraté que les autres. Mais bon.
Bah, peut-être que ça va toucher certaines personnes qui vont se dire, bon, c'est pour une fois ils ont fait un effort, ça va dans le bon sens, ils vont peut-être soutenir cette démarche.
C'est ce que j'espère.
C'est ce que j'espère. Ouais, j'aime bien être un peu naïf. Je me tourne vers toi, Traz. Toi, ton coup de cœur du mois, ça a été entre autres la mise à jour de la Xbox 360 qui est arrivée quelques temps avant Kinect. On reviendra dessus. Hein. C'était aussi l'un des événements du mois de novembre, hein, le 4 novembre, la sortie de Kinect. On reviendra sur nos avis maintenant avec un peu plus de recul encore. Mais
recul, juste, c'est le mot. Oui,
c'est ça. T'avais vu. Mais la mise à jour est arrivée. Elle ne concerne pas que Kinect et elle a apporté son lot de choses sympathiques.
Oui, alors de tête, de mémoire, là, j'avoue que je ne sais plus trop exactement ce que ça apportait, mais en tout cas, moi, j'ai surtout bien aimé le côté Kinect, Kinect-like, entre guillemets, où on peut effectivement tout contrôler sur les menus grâce à Kinect. Alors,
dans les menus Kinect.
C'est très sympa.
Ouais. Moi, j'ai trouvé ça nul.
Mais il n'y a pas la voix.
Il y a beaucoup
encore.
D'avis en fait.
Ce qu'on attend, c'est de contrôler les menus à la voix.
Ça devrait arriver.
Ça arrive au printemps, d'accord. Mais moi, je veux parler à ma console. Quoi.
C'est vrai.
Voilà, Xbox, lecture, Xbox, démarrage du jeu. Enfin, je sais pas.
Je trouve ça beaucoup plus clair.
Là, pour le coup, c'est vraiment une avancée. Parce que là, faire joujou avec sa main comme ça, c'est pratique à la caméra, évidemment, les gens nous voient. Mais faire je trouve pas ça super pratique et ça fait mal au bras quoi, au bout d'un moment.
Mais c'est surtout que je trouve qu'on perd en rapidité d'utilisation.
C'est normal.
C'est-à-dire que déjà, on rappelle que c'est dédié à un menu Kinect. C'est pas sur l'intégralité de l'interface.
Bien sûr.
Et surtout dans ces interfaces qui sont quand même aujourd'hui assez chargées, riches, parce qu'il y a énormément de choses à proposer. Et ça, c'est vrai que sur Xbox, l'offre maintenant avec le Zune Marketplace, etc., les films, le Canal Plus à la demande, etc., c'est une super offre. Vraiment, le Xbox Live est vraiment riche. Mais néanmoins,
et encore, on est loin des États-Unis encore. Hein,
c'est vrai.
Faire des progrès au niveau des films.
Mais c'est vrai que du coup, c'est des menus sur lesquels il faut faire défiler beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'à la manette, en fait, tac, on passe de slide en slide. À la main, ce serait.
Il y a qu'à la voix où ça peut peut-être aller aussi vite qu'à la manette, mais là pour l'instant, avec le contrôle de mouvement, on perd un temps fou, c'est clair.
Surtout genre quand tu fais quand même sympa, je trouve ça beaucoup plus clair qu'avant.
C'est assez séduit en tout cas.
C'est visuellement,
ça je suis d'accord. Esthétiquement, c'est joli.
On est d'accord. Après, oui, effectivement, si t'as pas Kinect, t'en survivras. De pas l'utiliser pour jouer dans les menus, mais.
C'est surtout que je trouve ça pas très pratique. À l'usage.
Je sais pas, je pense que.
Sorti du fait, waouh, c'est sympa.
C'est l'effet Minority Report, on commence à contrôler comme ça sans rien, mais. Passer la surprise.
Oui, c'est ça, ça gagnerait quand même être beaucoup plus rapide, on est d'accord, oui, ça c'est certain. Mais effectivement, comme tu dis, Guillaume, quand tu auras la voix, genre Xbox allume-toi, Xbox éteins-toi.
Pour mettre les films en pause, ça va être beaucoup plus pratique que d'aller pécho le.
Exactement, bien sûr. Ça c'est quand même vachement plus sympa.
Moi j'aurais juste deux petits bémols sur une mise à jour qui effectivement je trouve vraiment de qualité. Alors donc il y a eu une mise à jour aussi esthétique.
Oui, les avatars qui sont un peu plus grands, etc.
Voilà, les menus qui se sont. Clarifiés, on va dire, et qui sont à bord carré maintenant, très anguleux. Il y a juste deux choses. C'est un, le popping des amis. Genre, vous avez un pote qui vient de se connecter, etc., qui apparaît toujours rond avec l'ancienne interface.
Ah oui, oui.
Et qui du coup n'est plus dans le ton. C'est ça.
Oui, c'est marrant, ça m'a pas choqué du tout.
Moi, je trouve que c'est plus en adéquation avec l'interface générale.
Je pense qu'ils vont le corriger rapidement maintenant qu'ils le savent.
Je sais pas.
Tant que tu l'as dit.
Et l'autre point, c'est avant les slides étaient mis avec un petit effet de profondeur, ce qui permettait d'en voir toujours 3-4 au fond, et on se disait attends, c'est quoi, c'est ça, tac. Et comme maintenant c'est de gauche à droite frontalement, on sait globalement ce qu'il y a, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais pas le reste. Et du coup j'ai un peu l'impression que c'est pour nous obliger à aller chercher dans les menus des menus sur lesquels maintenant des informations comme renouvelle ton abonnement Xbox Live, t'as combien de points, sont vachement visibles et en première slide. Avant ils étaient reportés dans des vieux menus.
Il y avait le live gratuit là.
Il y avait pire que ça, il y avait les indie games qui étaient complètement planqué et c'est la ça. Communauté s'est justement diminué. Qu'est-ce que vous faites? Les jeux, c'est n'importe quoi, on peut pas les retrouver. Ils sont revenus en arrière là-dessus, mais effectivement, il y a eu des petits ajustements qui étaient effectivement curieux.
Mais au global, c'est une très belle mise à jour. Franchement.
D'ailleurs, tu trouvais ça bizarre, Julien, toi, de le fameux pack family.
Ah non, c'est pas ça que je trouve ça bizarre. C'est
un peu étonnant.
C'est que je trouve que, par exemple, alors résumons, le pack family pour le Xbox Live Gold.
C'est 4 comptes en un, en fait, en gros.
Mais il faut payer.
Mais il faut payer, évidemment.
Ça veut dire que quand moi je m'abonne Canal Plus ou à une offre ADSL quelconque, ma famille bénéficie intégralement de cette offre. Je trouve que quand on a une famille, on pourrait acheter un compte Xbox Live et que papa, maman, fiston se crédite un compte et bénéficie de cette offre plutôt qu'avoir Bibi qui a 12 ans qui va y jouer finalement peut-être 3 fois, il veut son compte, alors il faut lui payer un compte. Maman, elle veut s'essayer une fois, elle veut un compte, il faut lui. Je trouve ça un petit peu.
Mais là au moins tu payes 4 fois quoi.
Oui,
bon, d'accord.
C'est un peu limite, moi, personnellement.
Tu payes un peu plus cher pour 4 comptes, mais effectivement, voilà.
Même si, une fois de plus, là, tu me posais la question, je trouve que le Xbox Live en lui-même, le Xbox Live Gold, c'est la meilleure offre console de jeu en ligne. Elle est de très bonne qualité, etc. Mais je trouve qu'il y a toujours des petits trucs qui font que ça fait un peu... Bah, on veut de l'argent. C'est normal dans ce monde incroyable. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas dire que c'est un peu choquant.
Bien faire tourner l'usine. Hein,
c'est ça. Mmh. Voilà. De ton côté, Guillaume, quelque chose qui t'a attiré particulièrement, on reviendra dessus pour, probablement, j'imagine, sur Assassin.
Oui, évidemment, sur Assassin. Si, justement, là, avec l'arrivée de Kinect, chose assez intéressante, vu que ça a beaucoup fait évoluer les mentalités au sein même de la rédaction d'LCI, vu que mon rédacteur en chef, qui n'a quasiment jamais touché une manette de sa vie, a découvert donc Kinect. Et alors là, vous êtes
d'une étrange manière.
Ouais. Oui, chez son papa.
C'est ça.
À la campagne, donc qui a un certain âge, qui est fan de jeux vidéo, donc voilà. Jeux vidéo n'a pas d'âge.
Ça ne transmet pas forcément de père en fils. Hein,
non. Et par contre, si justement, là pour le coup
Bref,
voilà, vous m'avez compris. Donc, il a découvert Kinect chez son père, Dan Central, et il est comme un malade depuis. Et donc, j'ai bon espoir maintenant que les jeux vidéo prennent un peu plus de place à LCI. Voilà. Donc, merci Kinect d'avoir fait découvrir le jeu vidéo à mon rédacteur en chef. Voilà.
Ça fait plaisir. Mais c'est vrai quand même que, contrairement à l'idée reçue du parfois, on l'entend sur certains forums ou ailleurs, du grand Satan TF1 ou quoi que ce soit, et que le jeu vidéo, on en parle toujours mal dans les médias généralistes.
Ah bah,
c'est vrai que sur TF1, et tu le sais
un
bien,
un autre exemple cette semaine, avec la sortie donc de Michael Jackson The Experience, un sujet au 13h de Jean-Pierre Pernaut qui a montré la jaquette en plateau. Voilà, donc non, TF1 n'a absolument rien contre le jeu vidéo.
Et Jean-Pierre Pernaut non plus.
Et Jean-Pierre Pernaut non plus. Et de plus en plus d'ailleurs. Regardez les archives, ils font pas mal de sujets, voilà, ouais. 13h, 20h.
Il y a des sujets fréquents dans le JT
voilà.
de TF1.
Ça n'empêche pas, évidemment, que des fois ça dérape, mais on fait ce qu'on peut, enfin voilà, de notre côté, pour essayer de...
LCI Game Club est une belle avancée sur le jeu
de
vidéo.
De faire avancer les choses.
Dans un gros groupe. Les sujets de Monsieur Collaro au JT, généralement, vont dans le bon sens pour le jeu vidéo.
Quand ça dérape niveau reportage vidéo, en général, c'est pas inhérent à TF1. Hein.
Ouais.
C'est
plutôt
ailleurs que ça se passe.
On va en reparler dans quelques instants.
Ça a dérapé chez nous, évidemment, mais c'est à chaque fois par des journalistes qui soit n'y connaissaient absolument rien et qui restaient dans les clichés éculés et qui n'ont pas fait leur travail comme il faut. Voilà, enfin c'est de la part de gens qui n'ont pas cherché vraiment à ce qu'il en était vraiment.
Et bien justement Guillaume, puisqu'on parle de ces petits dérapages télévisuels concernant ce média incroyable qui est le jeu vidéo, on va changer de chaîne sur une chaîne qui généralement est appelée plutôt
donc je ne le prononcerai pas,
la grande divinité des têtes pensantes de la télévision, Arte. Raon, tu as découvert ainsi que Poufy qui vous a parlé sur son blog
une bonne partie de tout le monde,
une émission, l'émission Philosophie sur Arte, qui a dédié son émission aux jeux vidéo. Et alors là, cramponnez-vous.
Ouais, c'était l'émission du 16 novembre, donc c'est une émission comme
c'est un coup de gueule, bien sûr, vous l'aurez compris.
Comme son nom l'indique, qui est consacré à la philosophie, qui est présenté par Raphaël Antoven, ou Antoven, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais en tous les cas, c'est pas un journaliste à la base, c'est un agrégé de philo qui est enseignant, etc. Et il invitait dans son émission Colas Duflo, qui est un autre professeur de philosophie, maître de conférences, etc. Enfin, des gens avec des CV longs comme le bras. Et en fait, c'était assez amusant de les voir. Donc, le sujet de l'émission, c'était le jeu, la philosophie en jeu, ou le jeu en philosophie. Et ils montraient des images de la Gamescom et de joueurs de LAN. Et il y a Colas Duflo qui analyse un petit peu cette photo en disant mais regardez, ils ont des têtes d'abrutis, ils s'enferment chez eux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui nos sorbets des no life, etc., etc. Et donc un ramassis de clichés et d'insultes, mais juste c'est incroyable qu'on puisse voir ça aujourd'hui en télé. C'est-à-dire qu'on sait que bon, parfois les médias généralistes c'est pas ça, ils disent des conneries, etc. Mais alors
et
à ce point-là,
on sait effectivement qu'une photographie ou filmer un joueur à la manette n'est pas forcément l'expression la plus intelligente au monde. Certes. Mais
alors du coup, justement, il y a eu une excellente parodie postée par un internaute sur Dailymotion où il remplace un peu les images des joueurs par des gens qui sont dans des bibliothèques et qui sont rivés sur leurs bouquins, etc. Voilà, exactement la même chose. Donc voilà.
Tu peux faire ça à l'infini. Hein.
Et alors, c'est pas la première fois qu'Arte diffuse une émission bourrée de clichés sur le jeu vidéo, malheureusement. Mais alors celle-ci, heureusement, elle passe vers 7h30 du matin les mardis et vendredis. Donc ça s'adresse à des gens, c'est pas très 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 vu, etc. Donc ils s'en foutent un peu. Néanmoins, ils ont quand même
posté... déjà.
Oui, bon.
Je voulais rien dire, mais
voilà.
J'y ai pensé.
Ils ont quand même posté sur le site la fameuse parodie en disant, en laissant ce message-là, parce qu'évidemment l'émission qui a quand même été vue et qui a circulé sur le net à la vitesse de la lumière chez les joueurs.
Ils ont dû bien jouer à la fin, je crois.
Ils ont quand même posté un truc qui disait l'émission émission sur les jeux vidéo avait suscité de nombreux commentaires. Un internaute a même concocté une riposte drôle et intelligente. Comme on est beaux joueurs, nous avons décidé de diffuser ce droit de réponse en leur disant bien joué. Donc bon, ça désamorce un petit peu le problème.
On va pas accabler Arte, qui en plus est une chaîne vraiment de qualité.
Non, mais soyons clairs. Moi, j'accablerais bien quand même Raphaël.
Voilà, le traitement du jeu vidéo généralement est quand même à ses limites. C'est pas la première fois en plus de la part d'Arte.
Non, puis enfin, je veux dire, c'est des gens qui font partie du tissu intellectuel français, qui sont censés avoir un cerveau et pas se contenter de balancer des clichés, surtout quand t'es philosophe ou t'es censé rentrer un petit peu dedans. Mais enfin, bon.
Non, mais heureusement, il y a aussi des philosophes et des psychologues qui connaissent le jeu vidéo et qui en parlent correctement aussi dans les médias aujourd'hui. Donc je pense que c'est encore une histoire de quelques années et ces clichés finiront par disparaître comme ils ont disparu avec le rock à l'époque et avec d'autres formes culturelles. C'est très intéressant justement d'analyser à chaque fois les nouvelles apparitions culturelles à partir de quel moment le grand public et l'image a basculé justement.
Est-ce que ça serait toujours la même période ou
justement,
pas
justement, je sais pas, il faudrait qu'un docteur fasse ça.
Ouais, c'est intéressant. Et même si je suis globalement d'accord avec toi Guillaume, depuis combien d'années on dit non, c'est plus qu'une question quelques années. J'ai l'impression qu'on aura 120 ans.
Mais le jeu vidéo à quel âge? Le jeu vidéo à quel âge? Le cinéma ça a 100 ans. Le rock ça a commencé les années 50. Voilà, donc
le rock a mis moins de temps quand même avant de pénétrer, on va dire, les couches populaires et machin. Enfin,
même mais en même temps, les gens sont plus habitués à la musique en tant que grand tout que
musicale,
que
là, c'est une nouvelle forme d'art et d'entertainment.
Mais le truc,
totalement
c'est
dans l'interaction.
C'est
nouveau,
on voit
donc
que c'est populaire parce que c'est énormément acheté, etc. Mais c'est juste pas accepté médiatiquement comme un contenu qui mérite qu'on s'y intéresse.
Mais c'est ça.
Moi,
je suis persuadé que
ça commence à bouger.
Je suis persuadé que le monsieur Colas Duflo sait très bien que le jeu vidéo est un truc énorme. D'ailleurs, quand ils parlent de la Gamescom, ils ont des chiffres à la pluie. Ils expliquent bien que c'est quand même des centaines de milliers de personnes, que c'est vraiment une industrie à prendre au sérieux, au moins du point de vue économique. C'est juste qu'ils leur rient au nez comme si c'était un peu dégueulasse, tu vois. Enfin,
nous, on s'est bien marré sur Gameblog de la génération texto.
Oui.
Pourtant, il y en a plein.
Bah oui.
Et qu'on trouve que c'est naze.
Et même derrière votre caméra, pardon.
Enfin bon.
La crédibilité justement passe par l'économique très clairement voilà.
C'est un peu pénible aussi ça au bout d'un moment, c'est-à-dire que le seul moyen on a l'impression pour que des gens qui ne connaissent pas parlent du jeu vidéo, c'est qu'on leur dise regardez ça fait plein de blé, et là ils font ah oui quand même,
c'est bon, soit
fait
derrière, soit il y a beaucoup d'argent,
mais il faut y passer par là et pour après parler de l'artistique. Donc c'est quand même c'est une industrie culturelle aussi, donc dans l'industrie il y a forcément des pépettes.
Nous y arriverons. On va passer à un autre coup de gueule et Guillaume, tu vas pouvoir garder le micro. C'est un coup de gueule que tu partages avec Julo, avec Traz, avec moi et j'imagine avec toi, Raon. Ça concerne deux choses. On va commencer par l'aspect le plus, on va dire, simple à expliquer, qui est Kinect ne marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guillaume ?
Voilà, on le savait depuis le début. On nous a dit très clairement qu'il fallait un recul nécessaire entre la caméra et vous.
1,80 en théorie.
Voilà, c'est ça, bien sûr.
De recul.
Moi, j'ai très clair, dans toutes les démos qu'on m'a fait depuis un an et demi, deux ans maintenant, j'ai dit, mais moi, j'habite dans un appartement parisien sous les toits. Non, non, vous inquiétez pas, vous mettrez Kinect au-dessus de votre télé, il y aura un meilleur angle de vue. Alors déjà, comment tu accroches Kinect sur ta télé écran plat?
Tu vas chez Bricorama.
Autant la barre de la Wii, ça se scotche en un clin d'œil, il n'y a pas de problème.
Alors, Microsoft m'a dit qu'il y aurait un petit kit pour l'installer, mais qu'ils ne savaient pas exactement encore quand est-ce qu'il serait disponible.
Parce qu'en attendant, moi j'ai essayé pendant une demi-heure de scotcher Kinect sur ma télé, j'y suis enfin arrivé. C'est très instable pour l'instant.
Puis
mais
ta télé doit être très belle maintenant, avec du scotch dans tous les sens.
C'est formidable, dans toutes les couleurs en plus. Bon, bref. Kinect au-dessus de la télé, et j'ai à peu près quoi, je dois avoir 2 mètres, même à peu près, non, je suis désolé, mais ça marche pas, quoi. Autant le jeu de fitness, on est censé être Fitness Evolved, on est censé être dans un carré bleu pour pouvoir faire les exercices, je suis juste devant le carré bleu, ce qui est très frustrant, je ne peux pas déplacer les meubles chez moi, donc ni les murs, parce que voilà, sous les toits c'est un peu dur.
Et alors justement, t'as un mur derrière ton sofa ou pas?
Oui.
Ouais.
Bah défonce le mur.
et je suis en pente.
Non, parce qu'il y a
ni devant ni derrière. La bonne nouvelle, c'est que je vais bientôt changer d'appartement et que mon prochain appartement est Kinect ready. Donc
si tu as un problème avec Kinect, changer d'appartement, ça marche aussi.
Voilà. Mais on est un peu dans le syndrome de la grosse manette de la première Xbox, et j'ai l'impression que Microsoft a pensé que tout le monde avait des gros appartements partout dans le monde.
D'autant que l'une des forces de Kinect, c'est de jouer aussi à plusieurs, de manière familiale.
Là, il faut au moins 3 mètres.
Et latéralement, il faut beaucoup de place aussi à deux.
Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pire au Japon. Enfin, mettez-vous 2 secondes, Kinect vient de sortir la semaine dernière.
Il y avait à moins 120 personnes au lancement. Hein.
150, hein,
150.
Ouais, alors, pour en avoir discuté avec des journalistes à Akihabara, il y a de moins en moins de queues en général au Japon, parce que maintenant ils pré-réservent tous et ils ont rendez-vous. Je vais chercher à telle heure ma console. Donc en fait, les queues ne se font plus à Akihabara de toute façon. Ce qu'ils faisaient là, c'est qu'ils vendaient avant d'acheter Kinect un ruban pour savoir si vous aviez assez de place entre votre télé et votre canapé. Sauf que le petit ruban, il faisait un peu moins d'un mètre. Et dire que Kinect fonctionne avec un mètre d'écart entre la caméra et la télé, là c'est vraiment
c'est rageant, parce que on l'a dit, on va revenir tout à l'heure dessus, Kinect ça a été l'événement aussi forcément. Il y a vraiment des jeux qui nous ont plu. S'amuser vraiment avec Kinect.
Alors,
quand ça marche, ça marche bien.
Fonctionne chez moi et j'adore.
Mais voilà. Mais le problème, c'est les conditions requises pour pouvoir en bénéficier sont finalement pas si communes que ça, et ça c'est un vrai souci.
Pour le dire clairement et le chiffrer, il faut 3 mètres en fait.
Oui, voilà. Franchement,
j'ai calculé, il faut 3 mètres pour jouer à justement à
Your Shape
qui est très bien d'ailleurs.
C'est très frustrant.
La version Electronic Arts aussi, Active 2, qui est vraiment pas mal. Il y a le test qui va arriver tout bientôt. 3 mètres aussi. Alors que sur la boîte, on te dit 2 mètres 10. Chez moi, j'ai 2 mètres 50. Tous les exercices dans lesquels tu dois te mettre au sol, hein, les pompes, etc.
Mais parce que t'es grand, c'est pas ça.
T'es pas reconnu.
Ouais.
Non.
Et peut-être que les nains, ils n'ont pas besoin de 3 mètres, hein. Ils ont peut-être besoin d'un mètre 20.
Peut-être. Non, je ne suis pas très grand.
Moi, je suis pas très grand non plus. Effectivement, il faut quand même du recul.
Ouais. Non, il faut le dire clairement, c'est 3 mètres. Il faut 3 mètres pour jouer.
C'est ce que j'ai calculé.
C'est un peu le souci. Alors, apparemment, peut-être qu'il sortirait dans quelques semaines, enfin plutôt mois, une espèce de petit adaptateur qu'on pourrait mettre dessus comme une sorte d'effet loupe.
Il faut qu'une focale plus grosse.
Comme il y a sur le PlayStation Eye, enfin directement intégré dans le PlayStation Eye, le truc bleu, c'est le grand angle.
Mais c'est vrai qu'à ce jour, pour l'instant, c'est pas très pratique. On continue avec Kinect d'ailleurs, Guillaume, parce que fouiller un petit peu dans les conditions générales d'utilisation. Qu'est-ce que tu as découvert?
Enfin, c'est des internautes qui ont découvert ça. Je n'ai fait qu'aller vérifier. Alors, allez voir donc les conditions générales que vous signez sans les avoir lues, évidemment, comme tout le monde, pour faire fonctionner votre Kinect.
Voilà.
Vous retrouverez l'adresse facilement. C'est l'article 9 des conditions d'utilisation. Dernier paragraphe que je vous cite. Alors, attention, il faut que je retrouve.
Dépliage de feuilles.
Voilà.
C'est parti.
Attention, je fais du bruit en même temps. Voilà. Alors,
que les gens soient sûrs, c'est bien.
Évidemment. Donc c'est mot pour mot. Hein. Ne vous attendez à aucun degré de confidentialité concernant votre utilisation des fonctions de communication en direct. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Ouais. Par exemple, conversation vocale, vidéo et communication dans les sessions de jeu en ligne en direct, offerte par le service. Je vais un peu plus loin. Vous comprendrez que ces communications peuvent être enregistrées et utilisées par des tiers. Et les communications dans les sessions de jeu en direct peuvent être diffusées auprès des tiers. D'accord. Ouais, donc, quand vous utilisez le chat vidéo, on peut vous enregistrer et Microsoft se donne le droit
d'utiliser,
de donner cette vidéo à quiconque, à qui ils veulent.
Et donc, à l'utiliser comme ils veulent.
Et on finit toutefois dans les mesures permises par la loi, oui, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit illégal. Il faudrait que la CNIL le regarde quand même. Nous pouvons contrôler vos communications et divulguer des informations vous concernant.
Sympa.
C'est sympa, ça fait quand
Big
même.
Alors là, ça jette un froid quand même.
Un petit peu.
Je serais très impatient de voir ce que la CNIL va penser exactement de cet article 9 des conditions générales d'utilisation de Kinect. Voilà, j'ai rien à rajouter.
On va peut-être les appeler, tiens, pour leur demander ce qu'il en est, parce que je crois que ça donne un petit peu.
C'est pas rassurant, quoi. Enfin,
non,
voilà.
Ça donne pas super envie, comme tu le dis, de venir chatter.
Mais surtout, est-ce que c'est vraiment légal aussi?
C'est une bonne question.
Parce que là, c'est vraiment limite, quoi.
Ça me paraît bizarre quand même.
Ils utilisent ton image alors que t'as pas signé pour ça, a priori. Hein. T'as juste acheté une caméra pour jouer à un jeu, quoi.
C'est ça.
Donc,
je me demande quand même s'ils mettent pas ce genre de truc pour être peinard si jamais.
Évidemment, oui.
Si jamais ils sont piratés, c'est ce que je me suis demandé.
Ça, ou bien s'ils tombent sur, je sais pas moi, des terroristes d'Al-Qaïda
qui
utilisent
à des fins.
Kinect,
à des fins
pour dialoguer entre eux ou faire du cybersex en Afghanistan. On sait rien. On sait jamais.
Pourquoi pas.
À suivre. Okay. Voilà, mais c'est vrai que ça jette un petit froid. Allez, on va passer, vous le savez traditionnellement, à l'homme du mois. Alors, le mois dernier, ils étaient 3. Ce mois-ci, ça s'est un petit peu resserré, car vous allez le voir dans ce récap du mois de novembre. Il s'est passé beaucoup de choses, hein, Kinect, des sorties d'importance, mais il y a eu peu de choses de prospective, des phrases qui tuent ou ce genre de choses, en tout cas suffisamment intéressantes ou captivantes pour vraiment qu'on les relaie ici. Et du coup, finalement, l'homme du mois,
c'est Kazunori Yamauchi, le père des Gran Turismo, qui lui en revanche a fait forcément énormément parler de lui, a cristallisé beaucoup d'attention et a été assez prompt à balancer pas mal de phrases évoquant un Gran Turismo 6 mais qui serait probablement pas ou peut-être pas sur PlayStation 3, en gros voyez-vous sur le 5 parce que franchement l'autre on sait pas du tout encore quand on va le faire ou machin, en reparlant de perfection dans son jeu, enfin Traz, c'est quelqu'un qui a fait un peu effet girouette et c'est vrai que c'est quelqu'un sur lequel il y a une aura de perfectionnisme absolu et quand on voit Gran Turismo 5 on peut lui dire qu'il a des belles qualités et des défauts mais en tout cas clairement pas, il est pas au niveau de la perfection et de la finesse,
il n'est pas exemple défaut, ça c'est une certitude, mais c'est pour ça que moi je reste persuadé que encore une fois malheureusement il a dû être pressé par
ouais,
son éditeur Sony. Non, mais j'en suis persuadé parce que Kazunori, lui, il a toujours dit à chaque fois qu'il fait un Gran Turismo ou un quelconque autre jeu, il est jamais content du résultat. Il veut déjà aller vers la suite parce que ça l'intéresse pas de sortir un jeu qui est pas fini, quoi.
Dans ses derniers propos, il dit que 30%, il serait vraiment content de 30% du jeu. Le reste étant pour lui perfectible et améliorable via des mises à jour, etc. 30%,
ça paraît pas beaucoup quand même, ouais, effectivement. C'est non, mais le jeu, il a pas 6 ans, on va dire qu'il a 2 ans de retard, quoi. Ouais. Il a pas 6
ouais,
ans.
Parce qu'il y a eu GT, PSP voilà, et Prologue entre temps, donc c'est quand même travail à faire. Mais...
Mine de rien,
mais ça fait 6 ans qu'on entend parler de ce GT5.
Ah oui, bien sûr. Bah, c'est normal, hein, GT, tu vois, on commençait à en parler depuis 2 ans, il va sortir dans 4 ans, quoi. Donc. Quelque part ça fera 6 ans aussi, mais bon, oui Kazunori c'est un internel satisfait, c'est un perfectionniste au-delà,
mais ça entache quand même sa réputation, cette histoire, quoi, parce qu'en termes de finition
oui et non, sur ce 5 là oui effectivement il y a pas mal de voix qui se sont levées pour dire que bah c'était un petit peu du foutage de gueule sur les défauts du jeu. Maintenant pour moi les qualités prédominent vraiment sur le reste, quoi.
C'est depuis le 4 en fait, hein, qu'il y a qu'il a été entaché de plus être quelqu'un de parfait, etc. Enfin, de sortir des jeux parfaits. Parce que déjà, dans Gran Turismo 4, qui était un peu à la bourre, il avait supprimé au dernier moment le mode en ligne qui était prévu. Mmh. Quand il était sorti, Forza sortait à ce moment-là, et on parlait déjà du fait que ce soit scandaleux, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de dégâts, et qu'il n'y ait pas une meilleure IA, et ce genre de choses dans Gran Turismo. C'est pas nouveau, quoi, en fait.
Il faudrait qu'il arrête de perdre son temps à peaufiner des bagnoles. Mais vraiment, enfin moi, c'est mon point de vue. Je vois pas l'intérêt de peaufiner des voitures.
Je suis super d'accord.
Outre mesure.
Apparemment, les fans de bagnoles adorent conduire la voiture de.
Non, voilà. Mais je suis d'accord. Mais l'humain, il va pas aller voir s'il y a un milliard de pixels.
Enfin, moi, je m'en fous. Moi, je vais dans la quête de la bagnole la plus puissante à chaque fois. Et puis.
Le reste, tu t'en fous, franchement.
Moi, j'ai un peu l'impression
ça
quand même.
Ça peut être beau sans être extraordinairement beau, quoi.
Qu'il est symptomatique des développeurs japonais. Ça veut dire, il est un petit peu en marge de ce qui anime les joueurs et le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que l'attention est mise vraiment sur des points très particuliers, mais par contre, il y a des points qui tout le monde passe devant un écran et entend poc,
voilà,
poc. Lorsqu'on se tape contre un mur à 300 km/h une voiture, tout le monde fait. Mais c'est ouf, ils n'ont pas pensé à ça en 6 ans.
Il a contre-courant.
Ouais, et sur plein de détails, je le trouve archaïque.
Bien sûr. Bah, c'est ce qu'on disait dans le podcast spécial Gran Turismo 5. C'est vraiment ça, quoi. Il y a des points de détail qui nous font penser que effectivement, il a gardé des librairies sonores. Des années 90, ben, il les a pas changés, quoi, depuis, et c'est incompréhensible. C'est pas normal. Quand tu vois un Forza 3 au niveau sonore, enfin, je veux dire, quand on le remet, quand on y rejoue, pourtant le jeu il a quelques temps déjà, enfin, je veux dire, c'est magnifique, quoi.
Vraiment,
il y a les dégâts, il y a les bruits des vraies voitures quand elles se cognent entre elles ou contre un mur.
Les dérapages. Les freinages.
Alors que GT5, c'est pas du tout ça, quoi.
Il y a des voix qui se sont élevées, hein, pour dire que ils flippaient un petit peu sur le fait que ça puisse être une contagion au sein de Sony à Fumito Ueda, hein, le père des Ico Shadow of the Colossus, et donc du prochain Last Guardian, que lui aussi on attend depuis maintenant des années
Un petit bout de temps
déjà. On sait qu'en interne, il y a des petites dissensions, que tout se passe pas extraordinairement bien.
Ouais.
Espérons quand même que sur ces titres majeurs qui sont GT5 et Last Guardian à venir, on n'ait pas le même syndrome de gros jeu mais qui arrive, a du mal à arriver à son terme, voilà. et qui au final est ballotté entre extraordinaire qualité et défaut majeur.
Et parce que les gens qui passent devant la télé, comme tu dis, ou dans les boutiques, etc., ils voient aussi quand même un jeu qui est juste magnifique. Quoi.
Il est super,
quand tu montres les bons trucs, hein, parce que tu peux montrer des trucs assez moches aussi. Mais globalement, on a rejoué justement à Forza 3. Effectivement, il a pris un petit coup de vieux quand on regarde la précision et le côté photoréaliste de Gran Turismo, qui est vraiment super impressionnant, et ça reste vraiment une des forces du jeu, et ça par contre
on peut pas lui enlever maintenant
il tient sa promesse à ce niveau là
Espérons qu'il se remette en cause justement par rapport aux critiques des joueurs et des journalistes, pour qu'effectivement bah, à l'avenir ils tiennent compte bah, des idératas des gens et que voilà quoi.
Grand Turismo 5 c'est le prologue de Grand Turismo 6 voilà, qui va pas tarder.
C'est un peu triste à dire quand même.
C'est que moi, des prologues en fait.
Moi je vraiment je suis pas un fanatique de jeux de bagnole, quand j'entends ça franchement je trouve que ça fait un peu foutage de gueule.
Mais ça reste quand même un putain de jeu.
Mais oui, ça je suis d'accord. Mais voilà, mais je veux entendre genre c'est le début du machin honnêtement.
Non, ça on peut pas, on peut plus dire ça, c'est fini.
C'est pas, ça peut pas être une excuse, on peut pas se cacher derrière ça.
Exactement.
Soyons clairs. Ok, bah Kazunori Yamauchi, en tout cas vous le voyez, hein, un homme vraiment au cœur de cette actualité du mois de novembre, forcément avec la sortie de GT5. On va passer aux événements, on a parlé rapidement de Kinect qui est sorti le 4 novembre, oui. On va revenir sur quand même certains points clés, savoir que Microsoft souhaitait vendre 5 millions, écouler 5 millions d'unités d'ici la fin d'année dans le monde. On a eu les premiers chiffres qui sont tombés très rapidement hein, des États-Unis où il a été lancé en grande pompe, donc le 4 novembre, hein. En Europe c'était le 10 novembre. 1 million de ventes, bon démarrage. Depuis, pas de nouvelles, ça fait quelques semaines. En revanche, aucun chiffre communiqué sur l'Europe. Ce qui me fait dire quand même personnellement que le démarrage doit peut-être pas être aussi violent qu'escompté.
Ah, ils ont peut-être fait effectivement un très très bon début avant que ça se calme très vite. Quoi.
Mais un bon début aux États-Unis, mais en Europe, ça fait quand même maintenant quasiment plus de 3 semaines.
Non, mais le chiffre d'un million, c'était dans le monde.
Ah mais non, il est sorti genre quelques jours après. Non, c'était chiffre américain.
C'était uniquement les US.
Ouais.
Oui, il est sorti le 4 novembre aux États-Unis, ouais. Le 10 novembre en Europe.
Et les chiffres sont tombés genre le 11.
D'accord. Ouais, bah écoute, oui, faut... peut-être que les gens finalement savent qu'il faut une distance de 3 mètres pour jouer et que donc il y a que les Américains.
Ils n'ont pas de problème, ils ont tous des grands apparts.
Justement,
grandes maisons,
ouais. Donc, non,
si tu dois faire les 5 millions que sur les États-Unis, ça va être juste.
Non, ça c'est pour le monde. Hein, c'est
oui, non, mais c'est pour ça. Ouais.
Ah, mais j'ai revu à la hausse
l'Europe.
Vous avez vu des gens, probablement que vous avez vu dans vos grandes surfaces, à la Fnac, les grandes enseignes, etc., il y a des bornes Kinect. Moi, je suis tombé 3-4 fois sur des présentateurs qui sont là. Généralement, ils sont deux pour vous présenter que ça. Ils jouent toujours constamment seuls. Et il y a deux pélos qui regardent de loin comme ça et qui, dès que la personne se tourne, se barre. Je sais pas, je trouve pas le fond, la Wii, honnêtement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui y jouent. J'ai vu encore du Just Dance 2 et machin. Les gens, tout de suite, ils prennent la Wiimote, hop, ils essayent. Là, je sais pas, ça...
C'est trop disruptif. C'est où est la manette?
Ouais, c'est
et
ça.
Voilà,
ouais.
C'est... Peut-être que les gens...
Comment qu'on fait?
Voilà, comment qu'on fait? C'est... Je sais pas.
J'ai...
Ou pas oui. Du tout.
Kinect fait peur.
Je sais pas.
Est-ce que Kinect fait peur? C'est une question.
On a hâte,
je sais
de,
pas.
De voir les chiffres européens, mais moi je pense que je sens qu'ils sont pas très bons.
On va voir. On va attendre avec Noël aussi. Je pense. Non, que voilà. Peut-être de consolider avec Noël.
Il y a une énorme campagne de pub là qui va traquer Noël. Donc voilà. On
va voir en janvier. Et voilà les chiffres GFK quand ça tombera en janvier. Là, on verra ce que ça vaut quoi.
Et aussi peut-être que les gens, certaines personnes en tout cas, probablement pas le public visé immédiatement par Kinect, hein, mais attendent de voir un petit peu qu'est-ce qu'il va avoir comme jeu quand même. Parce que ça coûte quand même 149 euros quoi, de base, voire plus si vous n'êtes pas équipé en Xbox. C'est aussi ça. Hein.
Ah bah oui, là, forcément.
C'est que pour le très grand public qui n'a pas de Xbox et qui veut franchir le cap, bah il faut acheter le
dis
pack.
Dis donc, le papa de ton rédac chef, il avait déjà une Xbox ou il a tout pris?
Non, il avait déjà une Xbox. Et par contre, là, je pense que maintenant mon rédac chef va s'acheter une Xbox et Kinect avec. Donc pour le coup, là, ouais, bon. Pas mal.
Ils feront 1,1 million. Messieurs,
ok. Autre événement, cette fois-ci qui concerne un jeu. Raon, t'as pu te rendre en Angleterre à la découverte d'un titre qui fait parler énormément.
Par défaut, qui faisait parler effectivement énormément.
Sur lequel on riait aussi un petit peu parfois, tellement il se montrait pas. C'est Elle est Noire.
Elle est Noire, qui est donc développée par la Team Bondi en fait, on dit, en Australie.
Bondi,
ouais, ça se dit, Team Bondi. Et par le monsieur à qui on doit notamment
The Getaway.
The Getaway.
Et là, c'est le Peter Molineux.
Là, c'est le drame.
Oui, sauf que pour l'instant, il n'a pas sorti vraiment de bons jeux, en fait.
Oui,
enfin,
mais
il y a des gens qui se sont éclatés avec The Getaway, mais enfin, on peut pas dire que c'était.
Ah bah, faut expliquer comment. Hein.
Ah, si, Molineux, il a sorti quand même des putains de jeux, arrête. Mais en tous les cas, pour l'avoir vu de très près pendant assez longtemps, je dois avouer que pour le moment, je suis très intéressé et très intrigué, et j'ai vraiment hâte de le voir, et probablement grâce
tu
l'as aussi.
Vu,
enfin de le jouer je veux dire pardon parce que il y a Rockstar qui appuie beaucoup le développement avec des devs de Rockstar Leeds et de Rockstar North.
Resituons quand même un petit peu de quoi il s'agit.
Alors donc c'est un jeu
le titre Elle est Noire.
On va dire que c'est un jeu, c'est un thriller d'enquête avec un matinée d'action.
C'est pas basé sur le Dahlia Noir, je dis peut-être une grosse connerie hein, mais
non, c'est inspiré de tous ces films là, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Elle est Noire.
Voilà, ouais.
C'est inspiré de tous les films noirs américains de cette époque-là, ça se passe aussi dans les années 40 à Los Angeles. Ouais. Et en fait, on va incarner donc un flic, bêtement, qui va progresser au fur et à mesure d'un service à un autre au sein de la police de Los Angeles. Donc il va commencer à la police de la circulation, il va faire du vice, donc les mœurs, homicides, etc. Il va y avoir un certain nombre d'affaires qui vont échouer sur ces différents bureaux, et le but du jeu va effectivement être de les résoudre. Alors au niveau structure, c'est un open world en fait, hein, mais plus à la mafia, c'est-à-dire que ça se passe vraiment dans un Los Angeles reconstitué. Tu sors du commissariat, tu vas prendre ta bagnole, tu vas sur la scène de crime ou interroger des témoins, etc. Mmh. Vraiment d'une manière un peu libre comme ça, même si l'univers lui-même, a priori, il y aura pas ou très très peu d'objectifs secondaires dedans. Ce qui est vraiment impressionnant pour le moment, c'est la nouvelle technologie qu'ils utilisent. Pour
les expressions faciales
qui s'appelle le motion scan, c'est-à-dire qu'en fait il capture chaque scène deux fois, une fois pour les mouvements des acteurs et une autre fois avec juste le visage de l'acteur qui fait son jeu. Et il faut voir que le casting défonce, c'est-à-dire que le casting des acteurs qu'il y a dans Elle est Noire, ça défonce. Il y a juste plein d'acteurs secondaires qu'on a déjà vu dans des super grandes séries américaines, genre essentiellement Mad Men et d'autres, c'est-à-dire de très très bons acteurs. Et l'effet final dans le jeu, quand t'interroges un mec, c'est saisissant vraiment de réalisme. Ça va bien au-delà de ce qu'on a pu connaître pour l'instant.
Vous ne l'avez pas vu, on vous invite vraiment à aller regarder le trailer, le premier trailer de Elle est Noire.
Ouais.
Et effectivement, on voit vraiment un jeu d'acteur qui prend tout son sens dans le jeu vidéo.
Oui, parce qu'il est intégré en plus au gameplay, c'est-à-dire que quand tu vas interroger quelqu'un en fonction des pièces à conviction que tu auras pu réunir pour le confondre, l'accuser ou croire ses paroles, etc., il va falloir aussi décrypter un petit peu son visage, sa façon de s'exprimer, ce que ses yeux vont chercher ailleurs quand tu lui poses une question délicate, etc. Ah,
c'est comme dans
Et en fonction de ça,
en fait, c'est ça.
Comme
la série Light to Me.
Ah, je connais pas.
Ah bah, c'est une série. C'est une série qui passe sur M6,
sur M6,
je crois.
Ouais, c'est ça.
Et où c'est un spécialiste qui arrive à savoir si tu lui mens ou pas tout le temps, grâce aux micro-expressions dans les yeux, dans le sourire, dans le visage, dans la façon dont tu réagis. Et c'est une vraie science apparemment. C'est
la
psychologie.
Il y a plein de trucs qu'on sait qui sont avérés, comme la direction des yeux, en fonction que tu vas pécho un souvenir ou imaginer quelque chose. Donc bref, il va falloir jouer un petit peu avec tout ça, résoudre ces dossiers. Et si ce qu'on nous a montré en termes d'action, où il y a un petit peu de TPS, tu vois, à couverture, avec quelques fusillades, un petit peu de baston de mêlée, c'est pas très encourageant. Ça ressemble encore un peu à The Getaway, tu vois, avec une animation un peu flottante.
Honnêtement, c'est ce qui fait peur quand même, parce que The Getaway était gorgé de promesses. Quand on allait le voir, les choses qu'on nous montrait étaient vraiment classe pour l'époque.
Le
jeu final, mais là il y a Rockstar qui est derrière.
Voilà, alors en tous les cas, les phases d'enquête, ça donne vraiment la sensation.
Et des sous aussi.
Ça donne vraiment la sensation d'être un enquêteur en tous les cas. C'est-à-dire vraiment, tu vas chercher les pièces, les étudier de près, regarder les trucs, prendre tes petites notes, etc. Ça peut être vraiment intéressant.
C'est prévu pour quand ?
C'est prévu, il n'y a pas de date arrêtée.
2011
voilà.
Okay. PS3, Xbox 360 ?
Oui, on devrait pouvoir mettre les mains dessus début de l'année prochaine, donc vous donner de plus amples impressions à ce sujet.
Connaissant Rockstar, ils vont divulguer les infos façon mitraillette.
C'est ça, c'est le cas de le dire.
Voilà.
On va le découvrir effectivement dans les mois à venir, et vous en saurez les premiers informés bien sûr sur gameblog.fr. Allez, on va passer à notre segment news avant de s'intéresser vraiment aux gros jeux, les tests. On passera au crible les Majin The Forsaken Kingdom, Need for Speed Hot Pursuit, Michael Jackson The Experience, Epic Mickey, Solid Colors, Def Jam Rapstar Your Shape, et bien sûr on passera rapidement sur les Assassin's Creed Brotherhood, Black Ops et Gran Turismo 5. On en a tellement déjà parlé. Mais là maintenant c'est l'espace news, les news très importantes du mois de novembre à ne pas rater. Alors, on va commencer.
Pour les news.
Vas-y, fais-nous un petit.
Voici les news.
Aujourd'hui, Régis Fils-Aimé a déclaré pas de Wii 2 en 2011, alors qu'on sait de sources sûres qu'il y aura bien une Wii quelque chose en 2011.
On ne sait pas si ça s'appelle alors la Wii.
Voilà,
mais bon.
Ça c'est sûr. En termes de nom, ça rien n'est figé encore. Mais vraiment, le 3 prochain, on vous assure, tout comme il devait vraiment être au dernier E3. Là, c'est sûr, les jeux sont en cours de développement. L'ont vu. Voilà. Régis Fils-Aimé le dit. Au jour d'aujourd'hui, la Wii a encore beaucoup, beaucoup d'unités à vendre. Une fois que nous aurons atteint une base installée de 45 millions de Wii aux États-Unis, nous pourrons alors parler de la prochaine génération de consoles.
Voilà, les 45 millions aux États-Unis, ils en sont encore loin. Ils sont dans une trentaine millions. De millions. Voilà.
Ça fait un gros gap encore à combler. Hein.
C'est ça, mais peut-être grotesque. Qu'avec Noël, ils espèrent un bon petit 7-8 millions à Noël, plus quelques-uns.
Il faut qu'ils boostent parce que depuis quelques temps, c'est plus trop la Wii hein, qui cartonne aux États-Unis, c'est plutôt la Xbox. Quoi. Donc et la PS3 est pas loin de rattraper aussi. Mais bon, mais ils la ont Wii pris reste, tellement d'avance en même temps que...
Globalement, alors à peu de choses près, les ventes cumulées de PS3 et Xbox 360 sont légèrement supérieures maintenant aux ventes de la Wii, toute seule. Ça donne quand même un petit ratio.
De là à faire 15 millions cette année, enfin, l'année prochaine, je sais pas.
Ça dépend s'ils ont fait autant de packs que chez nous là, pour Noël.
Ouais, c'est
un
ça,
peu
en fait.
La folie. Là. C'est, on a la Wii à toutes les coutures, de toutes les couleurs, toutes les couleurs avec, avec tous les jeux qui sont déjà les grands hits, évidemment.
Ouais, c'est ça.
Et la Wii Balance Board et tout. Enfin, ils ont, je sais pas, il y a 3 ou 4 packs différents qui sont sortis là.
Et alors, il y a des analystes qui pensent que le bruit qui est fait par Microsoft et Sony en termes marketing autour des motion controllers, de la nouvelle manière de jouer, pourrait faire du bien à Nintendo dans un sens.
Par ricochet, parce que
ça pourrait permettre de donner un dernier coup à ceux qui n'ont pas basculé, qui ne s'intéressaient pas aux jeux vidéo, de s'y intéresser au moment de passer à la caisse, voir qu'il y a un truc dont tout le monde leur a déjà parlé, la Wii, qui n'est pas très cher, alors que les autres sont plus chers. Qu'ont des ludothèques ultra fournies avec des personnages comme Mario et compagnie,
et que
du coup ça pourrait créer un dernier engouement pour la Wii à Noël.
Et auquel ils ont déjà touché chez le petit neveu ou chez mamie qui s'est acheté une Wii.
À côté rassurant.
Oui, c'est ça. Donc, et puis alors après il y a le line-up aussi, parce que il y a du jeu qui sort en 2011 quand même. Il y a du jeu sur Wii prévu avec des personnages connus ou des bonnes formules qui devraient arriver. Il y a un nouveau Zelda de prévu aussi. Il y a quand même de quoi vendre de la console. C'est sûr qu'il y a du système seller a priori qui se profile à l'horizon. Hein.
Mais il y en a plus beaucoup après.
Non.
Preuve que vraiment l'autre est en train d'arriver et que Nintendo, en tout cas, a lancé ses dernières cartouches avec les Epic Yarn, les Donkey Kong et le Zelda qui devraient normalement clôturer
la 3D.
Le cycle de vie comme il l'a
c'est
commencé,
bien,
l'alpha et l'oméga.
C'est
quoi.
Beau. C'est beau ce que tu dis.
C'est beau. Là,
c'est l'alpha et l'oméga, le Zelda. Il a fait l'ouverture, il fera la conclusion de la Wii. Autre information, on reste toujours dans l'univers de Nintendo avec... Eh ben, un anniversaire. Je crois qu'on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire à cette console rêvée. La Super Nintendo, elle sortait au Japon le 21 novembre 1990. Et alors, je sais pas pour vous, mais alors moi, ça reste comme une console absolument mythique dans ma vie de gamer.
C'était ma première console de salon.
Comme moi.
Dès de vrai, parce qu'avant j'avais juste une Game Boy, parce que j'avais tanné ma maman pour avoir une Game Boy.
Tout pareil.
Et voilà. Ouais, j'avais une console de salon.
T'allais jouer chez tes potes comme moi.
Et voilà. Et puis moi j'ai fait à l'envers. J'ai eu une NES après la Super NES.
C'est vrai. C'est,
oui, parce que je lui dis non, c'est trop con, il faut que je revoie les jeux d'avant. Donc voilà. Mais bref. Beaucoup de souvenirs évidemment. Enfin, c'est pour moi la découverte du jeu vidéo sur ma télé. Donc forcément, tous les Mario, les Zelda.
Si tu devais retenir, je sais pas, deux titres par exemple majeurs,
Zelda 3.
Ouais.
Que j'ai retourné. Je me souviendrai toujours du générique à la fin où vous montre le nombre d'heures auxquelles vous avez joué. Juste, c'est le dernier truc que vous voyez sur le générique. La première fois que je l'ai vu, ce générique, j'avais 103 heures. Pour vous dire que je l'ai retourné quand même, ce jeu, vraiment. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Mario World, évidemment, mais il était vendu avec.
Oui, il était tellement incroyable.
Considéré par Miyamoto comme étant le meilleur Mario.
Ah bah,
je suis super d'accord pour moi. Moi qui n'aime pas les Mario, c'est le seul que j'ai vraiment aimé.
Il est fantastique.
C'est l'arrivée de Yoshi et moi qui.
Et toi, c'est sûr.
Qui est adopté dit Yoshi à la maison, voilà. Non, console mythique, voilà.
Moi j'ai changé un dinosaure.
Ou un dragon.
Ou un lézard. Ou...
Je pense qu'il mélange qu'il est des deux, en fait.
Ouais, c'est un mélange.
C'est un mélange des deux. Yoshi, c'est un Yoshi. Ce n'est ni un dragon, ni un lézard.
C'est probablement la meilleure des réponses.
il s'auto-reproduit, donc qu'est-ce que je te dis ? C'est une espèce unique.
C'est un mutant.
Voilà, il n'y a rien à dire.
Trace de ton côté, si tu devais retenir un ou deux jeux.
Moi, c'est de très très loin Zelda 3, donc sur Super Famicom. Je l'avais fait en japonais.
Waouh, respect.
Oui, je sais. Pourtant, je ne lis absolument pas le japonais. Mais j'avais tellement kiffé ce jeu que. Pour moi, c'est peut-être le plus grand jeu de tous les temps, de mon point de vue. Mais vraiment, ce Zelda 3 sur Super Famicom, parce que c'était le jour et la nuit par rapport à ce qu'on avait avant. Quoi. Donc, c'était pas ma première console de salon, mais. Il y avait un tel bond en avant par rapport à la Mega Drive notamment que
mode 7
on survolait le son à la carte,
les premiers jeux où on avait la simili 3D, Star Fox, souvenez-vous.
Star Fox, un des plus
grands jeux, il y avait de la vraie 3D avec le chip
Super FX,
Voilà, super exactement. Fixe, hein. Mais ouais, non, ouais. C'est une console mythique, mais vraiment, vraiment.
Ouais, clairement. En... Puis même la manette hein, a changé beaucoup de choses. Avec l'arrivée des touches sur la tranche, les quatre touches, les quatre boutons de façade. La
première manette a aussi bien pensé ergonomiquement qui tient avec autant de boutons.
Non, vraiment, cette console.
Street Fighter 2.
Pas de défaut.
C'est ce que j'allais dire. 150
francs.
Les après-midi, mercredi après-midi.
À réviser.
C'est entre deux parties de Street Fighter 2. Non, voilà, c'était.
Puis il y avait des boutons de couleur chez nous aussi sur la manette. Oui. Les codes couleurs de boutons, c'est un truc tout con, mais c'est eux qui ont inventé ça. Ouais.
Raon, toi, ce serait quoi les titres que tu retiendrais particulièrement
après ce qui a été
pour toi hein,
10, c'est un petit peu difficile, mais bon, le Zelda est forcément voilà. Et puis moi j'aurais dit Street aussi parce que c'est et alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais une Neo Geo en parallèle avec la Super Famicom.
T'avais des sous toi.
j'avais plus de sous après.
Pareil, j'avais acheté en même temps voilà.
Et j'ai changé moi un Atari ST contre cette Super Famicom japonaise à l'époque, donc j'ai laissé la micro de côté et mes boîtes de disquettes de jeux dedans, tout balancé un Musicos qui en avait besoin pour l'interface MIDI pour faire de la Super Famicom à côté. Donc mais malgré ça Street Fighter 2, même s'il était moins beau les jeux Neo Geo de combat ou qui existaient déjà à l'époque et qui étaient plutôt réussis, c'était
tellement fluide, jouable, rapide. Fin...
Et à l'époque, on avait l'impression que c'était vraiment la même chose que l'arcade. Alors que quand tu mets les deux à côté, c'est absolument rien à voir. Mais bon, ça suffisait.
Pour rien à voir, c'est quand même.
Il y a tellement moins de couleurs.
Voilà, exactement.
Julo, toi, ton côté.
Je vais être très. Oui, évidemment, je vais vous parler d'Actraiser dans deux secondes, mais effectivement, je mettrai Zelda et Mario tout en haut. Il y a un titre qu'on n'a pas cité aussi.
Donkey Kong était très sympa.
Non,
aussi.
Il faut absolument citer Super Mario Kart, évidemment.
Ah oui,
oh là là, mais que je suis
parce
bête,
que ça a été vraiment.
Ah oui, c'est dans le top 3, ça. C'est dans le top 3. Pour moi, il n'a jamais été égalé cette version de Super Nintendo. Elle n'a jamais été égalée.
C'est pas faux, ouais.
Super Mario Kart, pour moi, c'est le meilleur.
C'est vrai.
De mon souvenir.
Tout le monde réfléchit.
Il faut remettre dans le concept, dans le
contexte.
Celui auquel j'ai le plus joué, c'est celui sur GameCube.
J'ai plus joué à fond avec GameCube.
On a fait là aussi. Alors c'était à l'école de journaliste, beaucoup plus tard. Mais non, là on passait des samedis entiers à faire des tournois de Mario Kart à l'école. Ouais, donc ouais.
Après il y a des jeux qui sont très chers à mon cœur, notamment le premier quand j'ai acheté la Super Famicom. J'avais demandé à voir Mario, il l'avait plus le mec. Hein, donc il m'a dit bah prends ça, c'est très bien. C'était Gambare Goemon.
Ah c'était rigolo ça aussi.
Donc ça s'appelle Mystical Ninja chez nous.
Tout à fait.
L'un des jeux clés de Michel Ancel.
Et c'est...
qu'on retrouve dans l'excellente bio
édité, et bah, c'est un des jeux clés de Julo aussi parce que franchement
c'est sympa,
il m'a retourné la tête ce jeu, c'était mon tout premier en plus sur Super Famicom. Actraiser aussi parce qu'au lancement de la Super Famicom au Japon t'avais notamment t'avais F-Zero aussi hein, qui était incroyable et qui utilisait justement les boutons de tranche. Actraiser qui était un action RPG enfin plus action qu'RPG d'ailleurs, excellent, dans lequel il fallait gérer une ville, enfin pas gérer une ville en fait, il fallait repeupler une ville. Et t'as eu une pseudo suite, c'était dans le même univers qui s'appelait Soul Blader. Et là, même histoire, j'ai voulu acheter Zelda et le mec m'a dit j'en ai plus. Il m'a dit si tu veux, j'ai Soul Blader. Et je l'ai fait en japonais, Soul Blader. Incroyable, génial, un super RPG. Putain, il y en a tellement.
Secret of Mana. Extraordinaire. Final Fantasy VI, qui est pour moi probablement l'un de mes jeux. Cultissime.
Looney Tunes.
Ouais. moins cultissime. Mais très très bon aussi. Ouais.
Et n'oublions pas Mario Paint avec la souris
pour
pouvoir faire de la musique.
Le fameux.
Et mine de rien, c'était assez drôle de faire de la musique comme ça. Parce que voilà, j'ai trouvé ça très drôle.
J'ai acheté Mario Paint pour faire de la peinture. Au final, j'ai fait quasiment que de la musique.
Voilà, c'est pareil.
Et Donkey Kong Country.
Ah oui,
qui était vraiment exceptionnel aussi. Franchement, je l'ai pas ressorti, mais je l'ai regardé sur YouTube.
Extraordinaire.
On est en train de faire le test de Donkey Kong Country Returns. Et franchement,
il était tellement en avance que.
Et attends, les animations, elles défoncent encore.
Exactement, les modèles 3D, tout ça. Fin...
Vraiment super classe. Et ben voilà, joyeux anniversaire à la Super Nintendo. Une console qui restera très très chère dans nos cœurs. Allez, on enchaîne cette fois-ci plus de côté de l'actualité de Sony avec plusieurs choses. Les premières images qui auraient filtré de la PSP2, ça y est! Alors qu'est-ce qu'on y découvre, Raon? Qu'est-ce qu'on voit?
T'as l'impression que c'est une espèce de, je sais pas, de radiographie d'un truc obscur. Ça, mais bon, c'est.
Ça ressemble à la PSP Go quand même.
Oui, ça ressemble à la PSP Go. Il y a dans les rumeurs qui traînent depuis quelques mois maintenant, il semblerait qu'il y a eu deux versions. Deux mock-up de fait de la PSP2, un version en PSP Go, donc qui serait
Slider.
Celui voilà qui glisse comme ça, qui serait celui qui est illustré ce mois-ci, et l'autre plus traditionnel. Donc a priori, moi, enfin, je pense qu'il n'y a pas encore de forme définitive pour la PSP 2.
Apparemment, le problème avec le slider, c'est que c'est plus fin et que ça chauffe trop.
Ça chauffe.
Ouais, ils ont effectivement plusieurs problèmes à résoudre avec la batterie aussi, notamment avec plusieurs choses. Mais
l'équipe de développement, hein, les petites photos qui sont soi-disant.
Ouais, machin. Mais enfin, c'est très difficile de. C'est... En fait, on est juste obligé de croire ce que dit la source qui a fourni ces images, parce que très honnêtement, vu comme ça, on voit pas grand-chose.
Justement, alors, on est en 2010, hein, on a des appareils photos de très grande qualité dans tous nos téléphones. Pourquoi est-ce qu'il y a des photos comme ça qui sortent? Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi pourries? Pourquoi est-ce que le mec qui se dit tiens, je vais prendre une photo de la PSP, il la prend avec un Nokia d'il y a 10 ans? Enfin, je sais pas. Je comprends pas pourquoi elles sortent pourries comme ça, les photos. Donc je trouve ça bizarre. Et surtout ce que je trouve bizarre, c'est qu'on voit sur ce prototype absolument tout ce qu'on a prévu qu'il y aurait sur la PSP, c'est-à-dire le stick en plus, l'écran tactile derrière, enfin le pavé tactile derrière la console, le slider, la machin, enfin tout ce qui a déjà été dit finalement. Donc je trouve ça bizarre.
Ça sent le commenter, c'est ça?
Bah ouais, ça sent le, ouais, c'est ça le.
On
le,
rappelle le, que Sony a officiellement dit qu'il colportait des fausses informations pour voir d'où venaient les fuites. Parce que je crois qu'ils en ont vraiment marre de s'être fait choper la PS3 Slim et compagnie. Donc ça se trouve, ça serait peut-être fait par Sony comme ça.
Mais moi, ça m'étonnerait pas du tout, je te dis. Mmh. Pour ces deux raisons-là. Mmh. Les photos sont pourries et il y a exactement tout ce qui a été dit.
Bon, bah écoutez, on en saura plus. En tout cas,
menez l'enquête chez vous.
À l'E3, mais probablement peut-être avant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'actualité de la du côté PlayStation portable risque d'être bouillonnante, puisque ça, c'est Bert Nordberg, PDG de Sony Ericsson, qui a quand même dit vraiment là à demi-mot qu'un PSP Phone devrait arriver. Alors, il a été interrogé là-dessus et il a répondu: il y a beaucoup de fumée, à mon avis il doit y avoir un feu quelque part. Attends, c'est quoi cette réponse? En gros, oui, il y en a, et d'ailleurs
il y a plein de photos,
il y a des photos de meilleure qualité
pour le
coup. Il y a même une date qui filtrerait, puisqu'il y a des invitations qui ont été envoyées à des journalistes français pour un événement qui se tiendrait le 9 décembre avec la signalétique PlayStation précédée d'une signalétique téléphone.
Eh bien, on va attendre.
Ça a été envoyé à la presse généraliste sur les appareils, enfin ceux qui reçoivent généralement les trucs de Nokia, des smartphones Android et compagnie.
Donc, c'est-à-dire la presse high-tech, etc.
Exactement, ouais.
On va vite voir. Ce qui circule, a priori, sera un téléphone Android. Ouais. Et pas sûr du tout qu'il y ait la marque PSP ou PlayStation dessus, parce qu'a priori ce sera dans la gamme, donc Sony Ericsson,
Xperia,
voilà, exactement. Ouais. Ce qui est pour l'instant la gamme de smartphones où, avec tous les réseaux sociaux intégrés, tout ça, il y a plein de formes différentes, ils sont tous sous Android. Et j'ai peur qu'en fait ce soit juste une plateforme normale avec juste les boutons PlayStation, mais avec juste des jeux Android à télécharger. J'ai peur qu'on s'emballe juste sur le fait que non, en PSP Phone on jouera pas à des jeux PSP.
Mais il est possible qu'ils veuillent unifier cette plateforme là et la PSP par l'intermédiaire du PlayStation Network, et que le téléphone en question,
c'est possible,
puisse par exemple utiliser les minis ou des choses un peu de
moi,
genre là
ça, moi.
Ouais, ouais.
Et les jeux à des petits jeux snack gaming comme ils les appellent de la PSP 2,
ce sera typiquement
pour être,
ça ouais, bien sûr.
Écoutez, à suivre, mais en tout cas ce qui apparaît clairement, c'est qu'un PSP Phone quelque chose, en tout cas un téléphone avec des applications jeux vidéo fait dans la marque, avec la marque PlayStation, devrait être bientôt dévoilé. Autre information clé du mois de novembre, on a appris que la team SOCOM serait en train de travailler sur un prochain Resident Evil. Et ça, c'est vrai que du côté de Capcom, on a vu ces derniers temps beaucoup de développeurs occidentaux travailler pour des franchises bien établies chez l'éditeur japonais.
Surtout chez Capcom.
Effectivement. Ouais. Donc, Devil May Cry, Dead Rising. Là, ce serait Resident Evil. On sait que... j'ai un trou de mémoire. Monsieur Keiji Inafune a quitté ses fonctions au sein de Capcom. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
Moi, ça me paraît très probable que Resident Evil, qui a besoin d'un bon coup de 109, quoi, un bon coup de fouet, avoir un bon coup de pied au cul.
Mais par la team SOCOM,
par la team SOCOM, c'est bizarre. Ouais. Et c'est pas la team SOCOM, c'est la team derrière les deux derniers, dont un épisode PSP, je crois. Enfin, celui de la PS3 et le dernier sur PSP, un truc comme ça.
C'était pas non plus mirobolant.
C'est la team Burton.
Non, loin s'en faut. Ouais. Donc, c'est assez étrange que ce soit eux, mais pourquoi pas avec des produits. Producteurs japonais qui viendraient les épauler, des producteurs de Sony, etc. Moi, je dis pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas,
en tout cas
sait-on jamais.
Why not,
ça a l'air de s'intensifier en tout cas l'exode des grosses licences japonaises de chez Capcom du côté de l'Occident et surtout du Canada, hein, parce que la Team Socon est au Canada, tout se passe au Canada.
Je crois que le jeu vidéo va migrer vers le Canada bientôt.
C'est ça. Et d'ailleurs Splinter Cell 6 a été officiellement annoncé par Jed Raymond, qui est désormais à la tête de Ubisoft Toronto, qu'on a pu voir dans une course endiablée de chaises de bureau. Une vidéo que vous pouvez trouver sur gameblog.fr et récemment donc dans une vidéo elle officialise Splinter Cell 6 développé chez Ubi Toronto.
Quelle surprise.
C'était une vidéo qui avait rien à voir avec, enfin qui était une vidéo promotionnelle d'Ubi pour l'Ontario en fait, donc qui est sur le site officiel de, je sais pas, l'office du tourisme ou un truc comme ça, mais enfin c'est le gouvernement d'Ontario, voilà, où elle explique effectivement, voilà, ici on fait le nouveau studio d'Ubi, nous travaillons sur Splinter Cell 6, elle a donné les chiffres de développement, etc.
Quand elle le dit, c'est plus sexy que toi quand même.
Ouais.
I will develop in Splinter Cell 6.
Écoute, j'ai voulu lui dire de venir, mais
c'est roulant, c'est pas... bon.
La prochaine fois peut-être qu'elle sera là.
Non. En tout cas, elle développe. Elle veut.
Oh, okay, oui. Elle développe en tout cas. Enfin, elle développe le studio Ubisoft Toronto. Actuellement, ils sont 80 et quelques. Ils comptent monter dans les 10 ans à venir à plus de 800 personnes.
C'est ça. Apparemment, ils sont en avance d'après ce qu'elle dit sur les plannings par rapport à cette consolidation d'employeurs. Et donc, ceux qui travaillent sur Splinter Cell 6, bah, c'est les mêmes que ceux qui travaillent sur Splinter Cell, qui ont travaillé sur Splinter Cell Conviction. Je vais y arriver.
On vide Montréal pour remplir Toronto.
Donc c'est la core team, on sait rien de plus, il y a eu juste quelques images furtives de Sam Fisher.
Ah bah non, c'est les images du celui d'avant.
C'est la cinématique. Le vieux blanc, tu sais.
La cinématique de Splinter Cell Conviction. D'accord. Quand il joue du piano.
Putain, je m'en souviens pas du tout, c'est
ah
marrant.
Bah si. Bah c'était pas dans le jeu en fait. C'était la c'est cinématique, pour ça, c'est le trailer.
Enfin bref, donc voilà, on sait rien de plus pour l'instant, mais c'est confirmé.
Très bien. Et ils développent 5 jeux triple A.
C'est ce qui il y en a 2 qui sont en développement pour l'instant, il y en a 5 de prévus.
C'est cool, hein, le crédit d'impôt en Ontario.
c'est
même à l'intérieur des États canadiens, ils se font la guerre pour avoir les crédits d'impôt les plus importants, quoi. C'est enfin bon, bref. Pourquoi on n'a pas ça chez nous?
Parce qu'on veut pas que ça marche. Voilà,
allons tous au Canada, ouais.
C'est
au Québec.
Autre information importante dans le milieu du jeu vidéo, il y a un nouveau film. Oh, va-t-il être bon? Peut-être, on ne sait pas. Ce nouveau film, c'est celui de Uncharted qui va arriver au cinéma. On avait évoqué des noms, et c'est d'ailleurs toujours d'actualité, hein, avec De Niro.
Épaissi.
Mais il y a une certitude, c'est que Nathan Drake sera incarné par Mark Wahlberg. Et là, je dis...
C'est le drame ou pas?
Bof, je sais pas, je trouve qu'il ressemble pas trop... On avait appris lors de son adaptation de Max Payne que c'est pas du tout un joueur, que bon...
Bon, ça, à la limite, on s'en fout, mais...
Oui, mais son adaptation était pas très bonne, son jeu d'acteur pas foudroyant.
Non, mais ça... De toute façon, comme acteur, à part quelques films où il est brillant, il est assez décrié, donc...
Pourquoi ils ont pas pris le mec de Desperate Housewives, là, je me souviens plus de son nom. Il a vraiment la même tête.
Ah oui,
c'est hallucinant.
Celui qui joue le mec de Tori.
Voilà, c'est ça, le plombier. Mais je me souviens plus de son nom, mais il a la même tête.
Ah ouais.
C'est, il a la même tête. Nathan Drake. Pourquoi ils n'ont pas pris ce mec-là?
Écoute,
je pense qu'il est moins, bankable. Il est moins bankable que Mark Wahlberg.
Oui, non, mais c'est sûr. Ça, évidemment.
Mais Mark Wahlberg, il est pas dans un très bon trend, on va dire Hollywood style. C'est pas des films qui cartonnent énormément en ce moment. Mais même s'il y en a des très bons à sa filmographie. Mais bon, en tout cas, l'actualité d'Uncharted continue, puisque au-delà d'un film, ça commence à se préciser autour de Uncharted 3. On sait que Sony devrait faire une grosse annonce le 12 décembre, un jour après les Video Games Awards. Et apparemment,
d'un titre
exclusif PS3. Mmh. Et apparemment, il ne s'agirait pas d'Uncharted 3, aux dernières nouvelles.
Mais du 4.
Mais. Mais apparemment, Uncharted 3 serait révélé directement pendant les Video Games Awards, via un trailer.
Et il sort à Noël. Regardez.
Non, c'est pas ça.
T'imagines.
Ah mais moi je pense vraiment qu'il sort en novembre 2011.
Oh oui, là c'est fort possible.
Que là c'est la première fois qu'on voit à l'E3, la première fois on y joue.
Bien sûr.
Et novembre, bim. Ouais. Et là la chronologie serait totalement respectée. Moi pour moi c'est clair comme
oui,
le proche.
Oui, je pense aussi. Ouais.
Mais je me suis trompé. Hein.
Avec le film en même temps.
Avec le film, moi j'allais
dire. Exactement. T'as tout compris.
Tout est dit.
Voilà. En tout cas, vous savez à quel point on l'attend. On espère que c'est ça. On croise les doigts du côté de la team de Naughty Dog. On leur envoie plein de bonnes ondes. Surprenez-nous, éblouissez-nous comme vous avez su le faire sur les précédents opus. Autre information.
Collection, Castlevania, voilà, vous le savez, hein, c'est un titre qu'on a beaucoup aimé ici. Néanmoins, les chiffres de vente n'ont pas été stratosphériques. On était resté bloqué un petit peu sous la barre des 500 000. Néanmoins, Julo, Konami semble satisfait.
Bah, Konami, ouais, par la voix d'un communiqué de presse, s'est félicité en fait de la mise en place du jeu, qui est d'un million d'unités dans le monde. Donc, c'est pas les ventes du jeu. J'ai fait un petit check rapide des ventes justement du jeu avant de commencer ce podcast. On en est environ un peu moins de 500 000, comme tu disais, 470 d'après VG Charts.
Un sur deux qui est
parti. C'est pas énormissime, c'est pas un triple A, etc. Mais c'est un petit succès, quoi. Ouais. Voilà,
c'est pas une catastrophe.
On aurait aimé voir plus grand, qui aurait probablement pu être plus grand.
S'il avait été un peu poussé en termes
voilà.
de marketing.
Donc voilà, ça on l'a déjà dit hein, maintes et maintes fois. Mais voilà, en tout cas, Konami s'en félicite et quelque part, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se dit.
La suite
va peut-être venir.
Qu'on appelle de nos voeux, vu le cliffhanger final. On va peut-être la voir.
Je sais pas encore.
Ah bon, on va pas spoiler. Round du côté de Diablo 3, il se passe des choses aussi.
Alors, pas de date de sortie évidemment, hein, toujours pas. Par
2011.
Contre, voilà, d'accord. Vague 2011. Par contre, donc Blizzard qui avait déjà établi auparavant, dans les nombreuses interviews d'ailleurs qui sont disponibles sur Gameblog, des responsables de ce développeur avaient dit qu'ils ignoraient pas complètement la console, que ça les intéressait, qu'ils étaient des joueurs, etc., etc. Et là, ça semble se concrétiser un petit peu plus puisqu'il y a des annonces précises d'embauche. Pour Diablo 3, pour la team Diablo 3, pour éventuellement le porter sur console. Donc il n'y a rien d'annoncé officiellement comme quoi il sortirait sur des consoles, mais en tous les cas ils ont précisé qu'ils s'y intéressaient et qu'ils essayaient de voir s'il n'était pas effectivement possible de développer le jeu sur les consoles HD.
Ce ne serait pas une première puisque Diablo a déjà connu des adaptations consoles.
Alors effectivement oui, Diablo est déjà sorti sur PlayStation 1 notamment. Voilà. Si je dis pas de conneries.
Oui, ouais. C'est ça.
Si, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Si, je me souviens plus. Mais en tous les cas, oui, il y a déjà eu des jeux Blizzard sur console adaptés. Bon, on va voir si ça se concrétise.
Très bien.
Pour le moment, ça reste quand même du click and play. Bon.
À suivre, Diablo 3, très grosse licence en tout cas, ça pourrait faire plaisir à beaucoup de monde. Oui. Toujours du côté du PC aussi, Oblivion, une suite, Elder Scrolls 5.
Ouais, alors ça c'est pareil, on en avait parlé il y a pas mal de temps, avant en fait que Bethesda sorte Fallout 3, il parlait déjà de la suite d'Oblivion. Mm-hmm. Y a eu un bouquin notamment qui est sorti, comme ça se fait en plus souvent dans l'univers d'Oblivion. Sur la 4 de couve, il parlait de ce bouquin en disant que c'était le liant entre l'épisode Oblivion et le suivant. Mm-hmm. Donc ça révélait qu'il y en avait bien un autre. Et là ça ressurgit un petit peu par l'intermédiaire de Eurogamer Danemark qui dit avoir été dans un avion avec un développeur de l'équipe
qui lui a montré la fin du jeu. Alors mec,
c'est pas que ça qui lui a demandé des docs de production, etc., pour lui dire si oui on est en train de travailler dessus, etc. Donc pas de détails particuliers, mais apparemment donc on devrait en entendre parler peut-être l'année prochaine.
Putain, c'est encore mieux que Twitter, et maintenant pour avoir des informations
faut aller en avion.
C'est génial. Bon bah merci pour ces petites informations clés. Il est temps, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les animaux qui sont avec vous, de passer aux tests. Alors les tests, on va commencer, Guillaume, avec ton petit protégé, celui qui a fait battre ton cœur.
Ezio.
Celui de Julo aussi.
M'écoute.
Auditore da Firenze. Assassin's Creed Brotherhood, voilà, qui est sorti.
Aïe, enfin.
Alors beaucoup d'attentes autour de ce titre. Alors c'est pas le troisième Assassin, c'est une suite directe à Assassin's Creed 2.
Exact, mais à la seconde près, au
ressenti.
Finit le 2, on reprend la suite. Non, d'abord une remarque, on a eu peur quand ils nous ont annoncé tout de suite, parce qu'un an de développement, on dit oulala, vous êtes sûr, parce que c'est des jeux qui demandent quand même beaucoup d'implication, c'est long, on le fait en 2-3 ans normalement. Et non, tout de suite rassuré, parce qu'ils ont bien corriger les petits défauts de gameplay qui fonctionnaient pas dans le 2. C'est des détails à chaque fois, hein. Par exemple quand on doit suivre quelqu'un, on voit mieux l'icône qui est au-dessus du personnage, on arrive mieux à le suivre. Plein d'idées, de nouvelles idées. Par exemple, quand on doit faire une séquence mémoire, quand on doit finir une mission, maintenant on a un pourcentage de réussite en fonction de choses qu'on doit faire ou pas. Alors,
je trouve que c'est une de leurs meilleures idées.
C'est vraiment, t'as un potentiel de rejouabilité des missions qui là gagne vraiment, enfin qui devient énorme.
Et surtout de l'approche qui est pas la même, parce que dans le 2 tu pouvais y aller quand même comme un gros bourrin. Et là t'es obligé de si tu veux les 100%, t'es obligé de te creuser le crâne et de te dire bon comment je vais faire.
Et ça c'est obligé. Ça manquait vraiment aux deux.
Ouais. J'ai pas
T'as
fini encore.
Multi ou pas?
Non, pour être honnête, je me concentre à fond sur le solo. Avec grand plaisir.
On va t'assassiner.
Non, et puis surtout, enfin voilà, c'est le premier vrai jeu totalement à 360, parce qu'avec la connexion Facebook, ils ont fait un travail de malade.
Raconte-nous un petit peu. Alors, je sais pas si vous avez vu.
Alors, il y a une application Facebook qui s'appelle Project Legacy que vous pouvez installer dans votre Facebook. Il y a toute une aventure à part où vous, en gros,
c'est une aventure textuelle.
Textuelle, tout en texte, un jeu Facebook où on n'a rien à acheter. Hein, d'ailleurs, c'est assez rare sur les jeux Facebook. Là, tout est gratuit. Hein. Où on vit des aventures à travers des animus du côté d'Abstergo, donc du côté des méchants. Il n'y a pas vraiment
des templiers.
Des templiers, voilà, de l'autre camp. Où on doit revivre des mémoires de personnages. Alors là, on est pour l'instant dans une époque avant Ezio. Donc on a des clés sur certains personnages, sur certaines choses qui se passent. C'est simplement un clic où on a un temps qui régénère ses points d'action, etc.
Ça t'apporte,
etc.
sur le background une
ça
connaissance
un,
plus
sur le background,
précise.
Et deux, tu as maintenant la connexion, donc maintenant que Brotherhood est sorti, dans Brotherhood on recrute des assassins pour faire sa confrérie, et ces assassins on les retrouve tels quels dans le jeu Facebook.
Ah ouais,
on les fait évoluer à travers des missions. C'est dans le jeu Facebook. Et on retrouve ces points d'expérience dans le jeu console. Et ça fait débloquer des bonus dans les deux sens. Ça débloque des bonus dans Facebook. Et depuis Facebook, ça débloque d'autres bonus dans la console. Je me dis que là, c'est quand même la première fois qu'on fait un truc aussi complet. C'est-à-dire que le soir, on peut jouer sur sa console. Et au bureau, entre deux, on peut continuer à jouer à Facebook. Je ne dis pas ça pour moi. Je parle
bien sûr
à mon patron, bien sûr.
Bien évidemment.
Voilà, c'est juste pour le boulot. Brotherhood, voilà. Enfin, ils ont corrigé tout ce qui n'allait pas. Et moi, je suis fan. J'étais à fond dans la mythologie. Et je suis impatient de voir comment ça finit. Parce que voilà.
Bah, tu verras. Ouais, c'est le seul truc moi que je lui reproche vraiment en tant que fan, c'est que ça n'avance pas beaucoup la méta-histoire, enfin pas tant que ça en fait.
Alors la méta-histoire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la
parce
grande,
qu'il faut
la grande
dire
histoire,
quand même
c'est
qu'à la base histoire, en fait. On joue Desmond,
voilà,
très clairement. On joue pas Ezio, que ce soit Ezio ou Altair, ou Altair. On vit l'histoire de Desmond en 2012 parce que décembre 2012,
parce qu'il
n'y
aura pas
de
2013.
Voilà,
oui, parce qu'en plus c'est très lié à notre actualité.
Tout est lié. C'est une série qui se base sur l'histoire humaine, voilà, depuis le début jusqu'à la fin, on va dire.
Oui, qui est programmé.
C'est vraiment fini par m'y mettre.
Dans pas longtemps.
C'est précisément ça qui est génial d'ailleurs. Moi, c'est ce que je préfère, c'est l'utilisation de l'histoire, des faits historiques qu'on connaît tous très bien, détournés façon un peu science-fiction, etc., qui est génial. Vraiment.
Mais tout en restant quasiment crédible par rapport aux vrais faits historiques.
Mais bien sûr.
Il n'y a aucun fait historique majeur qui est détourné. Les gens qui doivent mourir à telle année, ils meurent à telle année,
bien sûr.
Etc. Et ils arrivent à insérer dans des faits historiques réel cette lutte entre les Templiers et les assassins, et c'est
je trouve qu'ils vont pas assez loin, moi, encore, moi.
Ah, mais on va y arriver, ça va avancer.
Mais j'espère, parce que
je suis
là,
sûr qu'à la Révolution française, on va faire une catastrophe. Tu vas voir dans le 3.
J'espère. Mais tu vas voir déjà la fin de
Brotherhood. Française.
Ça fait, non, en plus, ça fait sens dans l'histoire. Parce oui, ça fait
Donc ça,
totalement
ça
sens.
Ça remet un petit peu d'eau au moulin de cette thèse.
Enfin, je l'espère, parce que ça ferait vraiment du sens entre les Templiers et les Assassins. La Révolution, c'est quand même le moment où le peuple reprend le pouvoir, et les Assassins veulent que le peuple soit éclairé.
Ouais.
C'est QFD, je sais
bon,
pas, mais bon.
Rien n'est vrai, tout est permis.
Et alors, en plus, moi, j'aimais. Alors, en lisant, d'ailleurs, petit rappel, hein, l'excellent livre.
La saga jeux vidéo Assassin's
éditions,
Creed.
Édition console syndrome édition, Nicolas Coursier et Mehdi El Kanafi, où on revoit exactement que dans chaque jeu Assassin's Creed, le personnage principal a un nom qui se rattache à l'aigle.
Ouais.
Alors moi, je propose Églantine pour une fille, pour une fille qui serait à la Révolution française. On n'est pas loin, elle serait française, elle serait une fille, ça changerait, voilà. Et voilà, donc c'était mon petit clin d'œil.
C'est une catastrophe, je viens de comprendre le Églantine.
Voilà.
Oh mon Dieu. Je cherchais genre en italien, ça fait quoi?
Non, en français, tout simplement.
Églantine, voilà.
C'est un prénom avec aigle qui m'est venu. Alors il n'y a pas de racine directe, mais au moins
Altaïr,
ça sonne.
Altaïr, c'est un rapport avec
aigle.
Oui,
je ne sais plus quelle langue là-bas, mais...
En araméen.
En araméen, il me semble. Oui,
okay.
Un truc dans le genre.
Très bien. En tout cas, vous aurez compris que ce soit du côté de Julo, Rahan et Guillaume, qui sont vraiment nos trois spécialistes là, de la saga des assassins, c'est un grand jeu.
Oui, oui, non, c'est-à-dire c'est une digne suite qui apporte suffisamment de nouveautés, qui corrige les petits défauts et qui on parle pas beaucoup du multi, mais c'est quand même un gros morceau aussi.
Bah, d'ailleurs, on parlait que de ça au début. Finalement, tout le monde était plus ou moins surpris de voir que ça allait être aussi une aventure solo et
une quinzaine d'heures de jeu.
Voilà. Bah, ce qui est pas mal. Bon,
beaucoup
finalement
plus,
le...
beaucoup plus si tu veux tout récupérer.
Encore plus de missions annexes que dans le 2.
Et alors,
ça devient beaucoup, enfin même trop là.
Il y a des trucs qu'il faut absolument faire. Il faut absolument que tu trouves tous les glyphes dans celui-là.
Ah, il y a encore une vérité à découvrir.
Non, c'est pas la vérité, c'est encore mieux que ça. C'est un autre truc en plus.
Très bien.
Là, qui est jouable.
N'en dites pas. Oh là là, d'accord.
Voilà.
À suivre. En tout cas, le jeu est bien parti. Hein.
J'ai encore une nuit blanche devant moi.
ça va être super dur d'attendre le 3 là, par contre.
Après une semaine de commercialisation, il vient de franchir la barre du million d'exemplaires vendus dans le monde. Donc c'est quand même un plutôt bon démarrage. C'est une série vraiment qui s'installe dans le temps. C'est le cas de le dire. Et puis, puisque tu parles,
c'est devenu la plus grosse IP, propriété intellectuelle d'Ubisoft très clairement, ouais. Avec tout l'univers qu'ils ont créé autour. Parce qu'on parle des jeux depuis tout à l'heure, mais faut pas oublier, il y a la BD, il y a le comics, la série animée. Je suis sûr qu'il y aura encore plein d'autres choses à venir.
Et on te file à chaque fois un petit truc à manger. Quand t'es fan du scénar, dans chacun des petits trucs.
C'est superbement bien pensé au niveau de la mythologie globale, parce que chaque petit élément publié ailleurs te donne une clé, mais pas trop, parce qu'il faut voir la suite. Et au niveau du timing aussi, parce que la deuxième BD rentre parfaitement dans les clés qu'on te donne avant Brotherhood et ainsi de suite. Bon, voilà.
Allez, ça donne envie de s'y jeter, hein, corps et âme, de faire le saut de la foi. Et puisque tu en parlais tout à l'heure de Facebook, je tiens aussi, puisqu'on est dans les récaps, hein, à remercier vous tous, hein, tous ceux qui sont membres Facebook de la page Gameblog, puisqu'on a franchi, c'est un beau cap, hein, quand même, pendant ce mois de novembre, les 15 000 membres sur le Facebook de Gameblog. Merci à tous, d'autant que là, alors, on est en train de parler, on est plutôt à 17 000 déjà. Donc ça avance. Merci à tous, vous le savez. Vous pouvez retrouver comme ça toute l'actualité, en tout cas les meilleures actus de Gameblog, plus et bien toutes les coulisses avec plein de photos, des petites vidéos débiles, rien que pour vous sur Facebook Gameblog. Voilà,
c'est des chaises roulantes aussi ici, c'est ça?
Pas de chaises roulantes, mais d'autres trucs complètement dingues. Allez, on passe très rapidement sur Gran Turismo 5 et Black Ops. On a pas grand chose à dire en plus que ce qu'on a déjà dit, soit en test vidéo, soit dans des podcasts dédiés. Vous avez compris que c'est des titres qui pour nous font partie des titres majeurs de cette fin d'année. En termes de volume de vente, c'est colossal, d'attente du public et donc probablement aussi de vous aussi. Il y a des qualités comme des défauts dans chacun de ces titres, mais vraiment on vous renvoie à tout ce qu'on a pu dire déjà sur gameblog.fr. Je crois qu'on en a assez dit dans tous les sens du terme. Voilà, et on va donc laisser un petit peu plus de place à des jeux qui sortent aussi en ce moment et qui sont peut-être un petit peu occultés par espèce comme ça de toute puissance de Call of Duty Black Ops et Gran Turismo 5. À commencer par Need for Speed Hot Pursuit, Julo.
Tout à fait, c'est chiant à prononcer. Hein,
ça. Ouais, c'est ça.
Moi je dis Hot Pursuit, hein, je m'embête pas. Un retour très intéressant, très réussi des fondamentaux de la série.
Avec des putains d'accidents.
Avec des putains d'accidents, oui. Alors c'est Criterion qui est aux manettes. Criterion, c'est Burnout, ça se ressent vraiment dès le début. Moi, il y a un petit truc qui m'a gêné, c'est la latence qui a été mise dans les commandes pour donner virtuellement du poids au véhicule. Ça rappelle d'ailleurs le tout premier Need for Speed. Donc ça m'a assez gavé parce que effectivement c'est un jeu dans lequel tu dois slalomer dans la circulation parfois dense, etc., et surtout à toute vitesse. C'est assez gavant au départ, mais finalement on accroche beaucoup et surtout il y a un mode multi autour de cet affrontement entre les tarés de la route et les flics, et tu peux jouer dans les deux camps.
Les tarés bourgeois de la route.
Voilà, c'est ça, très bourgeois.
Ouais. Lamborghini, Porsche et compagnie.
Exactement, évidemment, tu conduis des superbes donc caisses, ça fond la caisse, justement. Sur des routes, un peu dans la montagne, dans la campagne, etc. Donc il y a vraiment une ambiance super sympa, un gameplay qui a été assez bossé et qui en multi est vraiment rigolo. Il y a surtout aussi l'autologue, qui est une sorte de Facebook. Appliqué au monde de Need for Speed, c'est-à-dire qu'en gros, dès que tu vas battre un record quelque part, tous tes amis vont le recevoir sur leur mur, ça s'appelle le mur, hein, et ils vont dire voilà, Julo a battu ton record sur telle piste, est-ce que tu veux l'affronter? Et donc, ils te proposent comme ça différentes courses, voilà, pour que chacun se tire la bourre.
Ça, c'est bien foutu.
Tu peux prendre des photos, les balancer sur ton mur, tu peux commenter les entrées dans le mur de ton pote, tu peux faire plein de trucs en fait, et c'est le tout début. D'une vraie nouveauté dans les jeux de bagnoles et dans les jeux en général, je pense. C'est vraiment sympa.
Après les succès, maintenant on peut se lancer des défis entre potes.
Mais c'est purement communautaire, c'est vachement bien foutu, c'est intéressant. Et pour rien gâcher, le jeu est plutôt joli et tout. Donc vraiment, c'est un bon Need for Speed et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon Need for Speed. Okay. Voilà.
Et ben en attendant que. T'es d'accord aussi
Oui, je suis d'accord avec lui. Hein. J'ai moins joué que Julo, mais.
Et puis je crois que Kofi a raisonnablement bien aimé, même si nous ce qu'on reproche globalement un peu c'est la lourdeur des voitures.
C'est précisément ce que Kofi a pas du tout aimé, ce qui fait qu'il va pas y jouer, je crois.
Difficile de tourner.
C'est vrai que c'est assez handicapant au départ, mais bon, moi je m'y suis fait et au final,
un peu rigide quoi.
c'est lourd.
En tout cas, il rappelle les premiers Need for Speed, comme tu disais.
Et le premier Need for Speed était très lourd comme ça.
Ouais, tout à fait.
Allez, avant de passer à la suite, on va accueillir Tiger Suplex pour des tests complètement incroyables. On va donc parler de Epic Mickey, par exemple, ou encore Sonic Colors. Et ben, on va commencer par ce Epic Mickey qui a fait couler beaucoup d'encre
alors là, bravo.
Les mois avant sa sortie, donc sous la houlette de Warren Spector, le père des Deus Ex. On avait un petit peu peur de son arrivée à l'E3, est-ce qu'on avait pu voir, ça nous emballait, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que les premiers artworks qui avaient été publiés, qui avaient été si beaux, avaient fait finalement une mauvaise publicité au jeu lorsqu'on avait pu le découvrir. Je sais que Guillaume, toi aussi, tu t'y essayais.
J'avais tout de suite été accroché par... Ouais. Par le dessin, par ce Mickey plus mélancolique, beaucoup plus adulte. Ouais, c'est alors tu l'as retenu.
Alors Tigé.
Enfin voilà, ça m'intriguait, okay. J'avais envie de...
Bah, on avait tous été très intrigués, je pense, par les premiers artworks. Et ensuite, en ce qui nous concerne, pour ceux qui étaient restés à la rédac pour le 3, quand on avait vu certaines images, certaines vidéos, on était un petit peu déçus, parce que bon, par rapport aux artworks qui étaient vraiment très jolis, très sombres.
Mais les premières photos d'écran du jeu étaient très décevantes, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage ni rien, c'était très
moche.
Mais
le jeu en lui-même, alors maintenant qu'il est là.
Et bah voilà, j'avais quelques a priori, je pensais que je serais un petit peu déçu par le titre, et en fait on retrouve quand même une ambiance, comme le dit Guillaume, très mélancolique, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait Mickey se retrouve propulsé dans les limbes en fait de l'univers Disney. Il retrouve tous les personnages oubliés de ses premiers cartoons des années 30, et du coup il y a une atmosphère très particulière. C'est pas enfantin, hein, je veux dire, faut être un petit peu grand déjà.
Justement, moi c'est ma question, ça vise quel public vraiment, parce que Mickey, forcément, intuitivement on se dit que ça s'adresse à un public plutôt jeune, finalement avec Warren Spector derrière, et donc cette technique où on a le choix de peindre ou de dépeindre, c'est ça, et donc d'actionner ou désactionner des mécanismes. Ça a l'air d'être un peu plus complexe, donc plutôt un public adulte. Ça vise qui?
Le jeu est réservé aux 7 ans et plus, et je pense que pour 9-10 ans, on peut commencer à y jouer, ça peut être intéressant. Avant, c'est peut-être déjà un petit peu compliqué, parce qu'il y a certaines mécaniques dans le jeu qui sont un peu complexes. Justement, cette peinture et ce dissolvant, en fait, qui sont symboliques de la manière dont on veut jouer. Si on utilise la peinture, c'est plutôt pour faire le bien, pour construire, pour amadouer les petites bestioles qui nous attaquent. Si on utilise le dissolvant, c'est plutôt pour détruire, pour justement faire disparaître ces petites bestioles. Et tout au fur et à mesure du jeu, en fait, il y a cette notion de choix selon qu'on utilise le dissolvant ou la peinture.
Ça change vraiment beaucoup de choses ou pas?
Il y a 4 fins différentes. Donc selon vraiment ce qu'on va faire durant l'histoire, on a un dénouement qui change, et ça influe dans des trucs très simples, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de petits gremlins en fait qu'on rencontre au fur et à mesure du jeu,
et qui s'appellent vraiment gremlins.
Oui, tout à fait. C'est un vrai personnage de Disney, en fait.
Ah, on est calé là-dessus. Et
même d'aviation à la base, hein. C'est ceux qui bouffaient les ailes des pilotes.
Exactement, ouais. On en voit dans certains épisodes de Bugs Bunny aussi. Il est très mignon, le petit gremlin, chez la Warner. Et donc, par exemple, dans le jeu, s'il y a un moment, un des gremlins nous demande de réparer son manège et qu'on le fait plutôt bien, il y a des chances que plus tard dans le jeu, on rencontre un de ses copains qui nous dit: ah, toi, je me rappelle de toi, t'as été sympa avec truc, donc voilà, telle chose. Alors que ça aurait pu être tout le contraire.
Il y a en revanche un bémol, c'est les caméras qui sont pas terribles, hein, quand même.
Bah, c'est le seul problème en fait, parce que l'ambiance est là, le jeu est très profond, il y a beaucoup de secrets, donc en plus 4 fins différentes, donc on a envie d'y rejouer pour voir ce qui aurait pu se passer. Même si on peut recadrer la caméra derrière soi ou l'orienter un peu avec la croix sur la Wiimote, vraiment par moments on se retrouve avec une mauvaise perspective et on râle un peu parce que certains sauts sont
ratés. Et ça dès la première scène, hein. C'est frustrant.
Très rapidement, malheureusement. Après, l'ambiance est là et bon. Ça reste jouable, mais c'est frustrant par moments.
Ouais. D'accord. Mais pas suffisamment frustrant pour atténuer le plaisir de jouer.
Non, parce que l'atmosphère est vraiment là, vraiment intéressante. Et pour ceux qui s'intéressent à l'animation et à l'univers de Mickey, c'est vraiment passionnant parce qu'on retrouve plein de personnages.
Il y a énormément de bobines à débloquer.
Il y a énormément de bonus. Et puis, dans l'animation actuelle, d'ailleurs, les cinématiques sont faites de manière animée. Elles sont d'ailleurs très jolies. On peut les collecter, les revoir par la suite. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Epic Mickey.
On reste sur la Wii avec un autre titre, en tout cas une autre star mondiale, un peu moins connue certes que Mickey, mais il s'agit de Sonic, le hérisson le plus rapide de l'histoire. Alors Sonic Colors est là. C'est vrai que les derniers Sonic, y compris le Sonic 4, vraiment décevant, hein, pas une très bonne tendance, pas une très bonne période pour Sonic. Et bah Sonic Colors t'a plutôt séduit.
Oui, tout à fait. Bah comme Mickey en fait, c'est marrant, c'est un peu les héros de la Mega Drive et de la Master System là qui reviennent en force. Ça faisait de nombreux épisodes qu'on se demandait où était Sonic.
Sur DS.
Avec les
avec
Sonic
des
fans
remix.
Je suis d'accord, ouais, okay, les Sonic Crush qui étaient plutôt sympas. Mais en 3D, depuis les épisodes Dreamcast, c'était un peu la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que.
Et pas tous les épisodes Dreamcast.
Ouais.
Le premier est franchement sympa, mais criblé de bugs. Après.
Le 2 reste quand même un bon jeu. Il y a, à mon sens, je préfère le premier largement. Bon, il y avait des petites nouveautés de gameplay dans les derniers titres, comme la présence
du loup-garou.
Ouais, voilà. Enfin,
ouais, bah, ce qu'il fallait surtout
garou,
pas faire, quoi.
Voilà, toutes ces trucs qui faisaient qu'on sentait que la licence s'essoufflait complètement, qu'on savait plus quoi faire du hérisson et tout. Et pour ce Sonic Colors, ils ont pris le meilleur des modèles, c'est-à-dire le rival de toujours, Mario. Ils se sont inspirés vraiment de Super Mario Galaxy, parce que pour planter le décor, en gros, Eggman, donc Dr. Robotnik, qui s'appelle cette fois Eggman, c'est définitif dans nos versions européennes aussi. Mmh. D'ailleurs, petit détail, on peut mettre le jeu en doublage en japonais, ouais. Ce qui est assez
comme
agréable.
Dans Sonic Adventure sur Dreamcast.
Voilà. On a construit en fait un parc d'attractions dans l'espace et c'est un peu comme dans Mario Galaxy, c'est-à-dire de planète en planète, c'est chaque univers est différent et encore une fois à l'instar
quelle originalité
de... ouais mais tu vois c'est inspiré et ouais, du ouais. coup ça marche très bien et à l'instar de Mario on récolte alors là c'est pas des champignons, des étoiles ou des fleurs mais des petits wisps c'est ça, qui sont des aliens en fait qui donnent des pouvoirs spéciaux à Sonic.
On les resitue un petit peu, il y a la foreuse, il y a la
laser. Il y a la foreuse, il y a le laser qui permet d'aller très vite pour
la foreuse
pour,
comme dans Super Mario Galaxy, voilà.
Comme dirait Arthur, c'est un hommage.
Ouais, exactement.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le ballon qui permet de s'élever dans les airs. Il y en a un qui est très sympa, c'est le parapide. Parce qu'en fait, par moment, on est dans des phases où on est juste derrière Sonic en 3D. Il y a des scènes époustouflantes. À un moment, il y a un boss et un vaisseau géant. Et avec ce wisp qui donne la possibilité du parapide, en fait, on peut se mettre sur le côté très rapidement pour éviter les ennemis. Bon, il y a des scènes très impressionnantes. Et en plus de ça, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on sent que les créateurs ont un véritable amour pour ce jeu et qu'ils ont essayé de surprendre par moments. C'est-à-dire que Sonic, c'est toujours un peu les mondes casino, c'est ouais. Voilà, fluo, néon. Moi, j'adore ça. Et on se retrouve par moments, c'est un monde en particulier. On commence le niveau, en fait, on est dans des hautes herbes avec une musique vachement plus zen et tout. Et on sent que voilà, tous les univers sont vraiment travaillés, que le jeu, bon, a quelques défauts par moment au niveau du game design et on peut lui reprocher aussi qu'il est un peu court. Mais enfin, on a un bon Sonic 3D qui ne fait honte à personne.
Un retour de Sonic en bonne et due forme.
Voilà.
Ce qui a finalement de l'histoire a donné tort à rien.
C'est ça.
je tiens à le dire. C'est un bon Sonic.
Souvenez-vous.
C'est un rolling gag.
Très bien. Donc merci Tiger pour ce Sonic Colors. On va passer rapidement sur Majin and the Forsaken Kingdom. Alors c'est un titre qui quelque part pourrait faire attendre. Patienter en tout cas ceux qui attendent vainement presque The Last Guardian de Fumito Ueda, puisque le système est finalement assez similaire. On a un jeune héros dans un monde un petit peu comme ça qui part à volo, où les créatures ont pris le pouvoir, où une espèce d'ombre noire est en train de faire dépérir la terre, et puis il va s'associer à un Majin, un espèce de colosse, et tous les deux vont devoir comme ça ensemble mener une belle aventure. Alors c'est un jeu qui n'est pas exempt de défauts. Il est un petit peu justement ce qu'on reproche aux productions japonaises actuelles, c'est-à-dire de bonnes idées, mais techniquement il n'est pas au summum de ce qui peut se faire. Il y a des petits problèmes de caméra, il y a une certaine répétitivité dans le titre qui font que ça n'en devient pas un jeu majeur. Néanmoins, la mécanique fonctionne plutôt bien. Elle nous a quand même assez séduit. Il y a une ambiance assez bonhomme. Il suffit juste d'écouter en fait la manière dont s'exprime Majin, donc le colosse, et sa relation avec Teolt, l'espèce de jeune voleur qui a été. D'ailleurs, il s'appelle pas comme ça à la base. Hein. C'est ouais, Majin qui le nomme comme ça.
C'est pas Tepu.
Tepu. Tepu. Teolt. Oui. Teolt. Pardon. Teolt. C'est Majin. C'est Tepu. Et c'est une relation qui est assez intéressante, voilà, pour un petit jeu qui est un petit jeu coup de cœur, mais qui est pas non plus un grand jeu, faut bien l'admettre.
mais qui peut faire patienter en attendant, pour ceux qui aiment en tout cas ce genre de relation en collaboration. C'est un jeu qui se joue en solo exclusivement, hein. Certaines personnes auraient pu penser que du coup on pouvait incarner à la fois l'un le colosse et l'autre le jeune voleur. Eh bien non. Et du coup, il faut
c'est juste le voleur, c'est le colosse qui t'accompagne.
C'est ça. Voilà. Et donc il faut comme ça jouer. Et puis il y a des petits rebondissements à la fin. Enfin, c'est un jeu qui manque pas de saveur, mais qui n'en fait pas non plus un chef-d'œuvre absolu. On va passer sur un autre titre qu'il a Guillaume et aussi Julot.
Il va falloir faire un moonwalk, c'est ça?
C'est exactement, voilà. Ah bah je vous trace dans l'histoire, et pourtant. Michael Jackson, The Experience, qui est sorti sur Wii en attendant les versions Kinect et PlayStation 3.
Oui, surtout en attendant les versions Kinect et PlayStation 3, je pense.
Alors, qu'est-ce que tu as à lui reprocher?
Le problème, c'est que j'y jouais tout seul. Donc, tout seul, c'est comme Dance tout seul, c'est moyen tout seul.
Parce que c'est effectivement sur la base de Just Dance.
Il faut être honnête, la version Wii, c'est un skin de Just Dance avec Michael Jackson.
Il aurait pu s'appeler Just Dance de point Michael Jackson.
C'est sûr.
Alors, ambiance très bien, il n'y a rien à dire. Hein. On retrouve les mouvements, l'ambiance des clips. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre les clips originaux, donc ils ont remis vraiment la mise en scène, on va dire, entre guillemets, du clip.
Et les chorégraphies,
avec un Michael un peu flouté.
Un peu flouté, mais qui rend
très bien,
en fait,
finalement. Ouais. Ouais. Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais après, ça reste de la Wii et de la détection à la Wiimote. Donc, on bouge le bras droit et puis c'est tout, quoi.
Voilà. Je pense qu'il faut le savoir, mais en même temps...
C'est un jeu purement convivial
et festif, et quelque part, même quand tu ne... Enfin, je veux dire, t'achètes pas ce jeu et tu te dis « Ah, je peux tricher, il suffit que je bouge la main », tu vois, tu te fais très vite chier. Tu l'achètes parce que tu as envie de danser avec tes amis, ta famille, etc. Ou même tout seul, parce que finalement, tu peux te perfectionner sur les chorégraphies qui sont effectivement pas exactement comme dans les clips, mais qui sont qui reprennent absolument tous les pas, etc., qui les font tourner un peu plus en boucle, etc. Les clips sont pas là non plus, mais il y a un vrai effort sur la mise en scène, sur le visuel, etc. Et on parlait donc de Michael Jackson, puis des chorégraphes qui sont autour de lui, etc., des danseurs qui sont autour de lui, etc.
Il y a c'est quand très même. Dur, moi je suis néophyte des pas de Michael Jackson, honnêtement.
Mais on se perfectionne.
Si on les apprend pas,
justement.
C'est pas facile quand même.
Mais tu les apprends justement en enchaînant les parties, etc. Ouais. Et c'est assez amusant de vouloir comme ça se perfectionner. Et finalement, Thriller, par exemple, moi, au bout de 5-6 essais, j'arrivais à la danser correctement, quoi.
Mais en même temps, on nous avait vendu un jeu où on allait apprendre les pas
de
Michael.
C'est le gros défaut du
avec
jeu.
Avec la Dance School.
C'est nul la Dance
en
School.
En fait, on débloque juste des vidéos où on apprend rien, faut être honnête.
Oui,
c'est pas
elles sont absolument pas interactives.
Et je vais prendre juste en comparaison avec Dance Central, où là vraiment avant chaque danse on apprend, on répète au ralenti plusieurs fois chaque mouvement et chaque pas. Là on est un peu perdu et essaye de faire comme le bonhomme qui bouge dans la tête.
Il y a ça, alors on aurait effectivement aimé avoir une vraie Dance School, et surtout pour les fans qui vont tous acheter ce jeu,
évidemment.
T'as envie d'avoir des petits bonus, des petits machins, etc.
Le fan service est très réduit,
très très réduit, et c'est dommage. Ouais, ils auraient pu trouver des petites vidéos, des petites vidéos collector, des trucs
à l'intérieur du cercueil.
Finalement, t'as même pas de différents modes de jeu.
Qu'est-ce qu'on a
pas
vu sur Michael Jackson?
Il y a plein de trucs qu'on a pas vu. Non.
Mais genre quoi?
Plein de trucs. Il y a des trucs à creuser. Bien sûr, il y a plein de choses.
Des trucs à creuser, ouais, la Terre.
Non, arrête.
Attends, ils vont sortir combien d'albums avec des chansons qu'il avait enregistrées qu'on a jamais entendues?
Mais c'est pas lui qui chante.
C'est pas lui qui chante.
Mais non, ça, oui, sur ce truc-là, oui.
Non, mais moi, ce que j'attends très impatiemment, c'est la version Kinect quand même, parce que là, d'une part, bon, à condition d'avoir 3 mètres devant sa télé, je pense que là, on pourra danser entièrement, et surtout, a priori, il y aura la reconnaissance du chant.
En fait, dans la version Kinect, c'est la même techno, je pense, que dans Your Shape, c'est-à-dire que
il va falloir chanter et danser en même temps.
Ouais, chanter, tu
là,
peux chanter.
Là, il y a du level, hein, ouais. Si tu veux faire ton chant et ta danse de Michael en même temps.
Mais le plus important, on l'a pas dit, c'est qu'il y a 27 titres qui sont extrêmement bien choisis
et qui
couvrent absolument tous les plus gros hits de Michael Jackson.
Je pensais qu'il y avait une quarantaine de chansons, non?
Non, c'est 27.
Ah, 27, d'accord.
C'est déjà pas mal.
Déjà, avec les 27, tu.
Non, mais je te jure.
Tu couvres vraiment tout. Il y a aucun gros titre qui manque. Hein, donc,
Non, ils y sont tous, et donc tu sens pas la volonté de te sortir un Michael Jackson 2 derrière. En même temps, je pense qu'ils ont payé assez cher la licence pour un jeu. Voilà.
C'est que Sony a prévu, avec les ayants droit de Michael Jackson, une dizaine d'albums, hein, d'ici à 3-4 ans, je crois.
Mais
si on sort des faux à chaque fois.
C'est quand même un peu pathétique, quoi.
Et à noter que parmi la liste, donc sur ces 27-là, il y a des gros hits, et il y a même des, pas des inédits, mais des rares, quoi, comme. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mon sang. Bref, c'était une chanson de l'album Off the Wall, qui était paru justement dans le truc qu'on a acheté, Stras, le coffret collector de 2004, etc.
Ça vous reviendra, en tout cas, bon, on sent que c'est un peu contrasté sur Michael Jackson. Pour les méga méga fans, forcément, bah, ils y retrouveront un petit peu leur compte. Pour les autres,
mais vu le succès de Just Dance, il y a bien mais des oui. gens qui se sont amusés dessus. Hein,
carrément.
Donc oui. Voilà.
Moi, j'y ai joué avec ma fille, tu vois, elle avait la sensation de jouer.
Faut le prendre comme un karaoké de danse, et pas comme un jeu gamer où il faut faire un score. Voilà. Ouais.
C'est un karaoké de danse. Karaoké de danse. Alors, est-ce que le karaoké de danse est meilleur que le Hey gros, t'as vu Tiger, Def Jam, Rapstar? Comment c'est?
Je t'ai vu, parle bien. Franchement, c'est pas mal.
Ouais, gros.
On va pas tout faire comme
si,
ça.
Si, c'est un défi, c'est un défi.
Vas-y, tiens deux minutes pour voir.
Def Jam Rapstar, bon, bah, c'est un SingStar, un karaoké de hip-hop.
Ouais, c'est vrai.
L'univers hip-hop. Donc, avec beaucoup d'artistes, évidemment, du label Def Jam.
Ah, il y a Sefio.
Tranquille.
Ah, Sefio, c'est pas ça. Sefio, ça, c'est Cocktail Molotov, tout ça. C'est la sélection française que nous, on a le droit à ça en France. Donc, on a le droit à Sefio, on a le droit à NTM, on a le droit à La Fouine.
Il y a La Fouine.
Il y a La Fouine, évidemment. Et il y a la sélection d'artistes américains, dont le Wu-Tang, dont Nas, dont Kanye West, Run DMC. Voilà, une bien belle
sélection.
Il
n'y a même pas Tupac, ça sert à rien.
Je crois qu'il y a Tupac, si, il y a un morceau débloquable de
Tupac. Et... s'il n'y a pas Tupac dans un jeu de rap, c'est pas un jeu de rap. Voilà, c'est tout.
Il y a Tupac.
Mais je crois qu'il y est. Donc, t'inquiète.
Parfait, alors, mais il faut le débloquer par hasard.
Oui.
Voilà. Oui, parce qu'il y aura beaucoup de choses.
S'il n'y a pas Tupac, je suis désolé, c'est pas un jeu de rap.
Non, il y a Tupac, il y a Big.
Ça marche ou pas, honnêtement, c'est ça la question.
Ouais, ça marche. Ça marche. Après, bon, ça reste un jeu.
C'est super dur.
C'est méga dur. C'est là où on se rend compte que rapper est un véritable métier.
Ah, bah oui, c'est sûr que sur le flow de ces few, c'est compliqué. Mais bon, je pense que ceux qui aiment le genre.
Alors ensuite, c'est censuré aussi, il faut le dire.
Ça, c'est le truc qui est vraiment un peu naze.
Ah ouais. Ça aurait pu être une option ou un truc, quoi, merde. Il y a un contrôle parental sur les consoles, en plus c'est pas compliqué.
Sur certains morceaux du Wu-Tang, t'as bip bip bip.
Il y a des bips.
T'as du blanc.
Bah oui.
Du blanc, donc tu
donc t'as plein de chansons où ça rappe, puis pouf, t'as un blanc, puis un autre blanc, puis encore un autre blanc. Voilà. Et là, en plus, c'est déstabilisant.
Par contre, pour bien monter son score, il faut suivre à peu près les paroles qui sont écrites. Parce qu'il y a une jauge qui te juge par rapport à ça. C'est-à-dire, si tu fais du blablabla, il y a paroles nulles, et si tu. T'efforces de bien faire les paroles, ouais.
Moi, une fois de plus, en termes de positionnement, je sais pas qui ça vise parce que j'imagine pas les mecs qui sont des rappeurs ou apprentis rappeurs s'amuser à ça parce qu'ils vont trouver que c'est bidon de le faire avec sa console et ce machin.
J'ai une réponse pour toi.
Ouais. Ah, ça m'intéresse.
Je pense que ce jeu s'adresse à tous les types qui appellent Planète Rap à 20h pour faire leur flow parce qu'il y a l'aspect sur Skyrock, il y a l'aspect communautaire en ligne.
Pourquoi ils appellent pas Skyrock?
Où on peut poster sa vidéo avec son freestyle, parce que justement dans le jeu il y a des morceaux voilà, qui sont juste des samples voilà, c'est juste de la musique et on peut faire son flow dessus. Donc,
et balancer sur Facebook et compagnie, quoi.
Bah ouais, et puis surtout sur le réseau voilà, sur Xbox 360, PS.
Mais il y a même
tout.
Des sélections
Et il y a tout un mode de truc où tu peux avoir des rivaux, genre quelqu'un voit ta vidéo et puis genre a fait le même morceau que toi, il peut vouloir te défier et tout machin. Donc je pense que toutes les Amandine du 38, tous les types un peu comme ça. Voilà, faut qu'on aille y faire un tour, hein, d'ailleurs, parce que je pense que ça va être vraiment épique, hein, les vidéos qu'on peut trouver.
Il y a des jolis posts de blog à faire là-dessus.
Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire. Et puis pourquoi pas, ça se trouve, il y a des talents qui vont émerger de
Def Jam. Mais ils veulent le faire.
C'est leur ambition. Après, moi, je trouve juste que ce jeu arrive un peu après tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait pu sortir il y a 5 ou 6 ans, ça n'aurait pas changé grand-chose, quoi. Voilà. Juste aspect communautaire. Exactement.
Okay.
Comme dit Traz, les jeux musicaux font tiep. Donc...
ah bah en tout cas, c'est sûr que les jeux musicaux ne font plus recette.
Mais pour les amateurs de hip-hop, ça reste très sympa. Hein. S'ils préfèrent ça que les SingStar classiques, ça fonctionne très bien.
Voilà. Très bien. Et bien, pour conclure ce podcast, qui a fait une bonne durée là quand même, on va finir avec Your Shape Fitness Evolve, le jeu auquel Guillaume ne peut jouer, vous l'aurez compris, mais auquel Julot a pu jouer, et apparemment quand on y joue, c'est pas si mal.
C'est pas si mal, ouais, ils ont réussi à vraiment...
Vas-y, fais-moi pleurer un peu plus, vas-y.
Non, mais disons que Kinect, t'as l'impression vraiment, enfin c'est idéal pour les jeux de fitness en fait. Hein. C'est, si tu as joué à Wii Fit, tu comprends bien, c'est chiant, la reconnaissance est pas terrible, il y a, tu dois avoir cette putain de balance board qui prend la poussière et tu sais plus où tu l'as rangé, puis après il y a plus de piles, etc. Enfin c'est assez relou. Il se trouve que là t'as besoin de rien, ça marche très bien à partir du moment où t'as au moins 2,50 m. Si t'as 3 mètres, c'est mieux parce que tous les exercices qui te demandent de te mettre près du sol ne fonctionnent pas, ou de mettre ta jambe en arrière, mais derrière toi il y a ton canapé et voilà, il faut 1 mètre de plus. Donc faut clairement 3 mètres pour pouvoir tout faire. 2 mètres 50, ça suffit à peu près. Moi, je sais ce que j'ai chez moi et ça allait à peu près. Ils ont créé une interface super sympa et surtout la reconnaissance de mouvement est vachement bonne parce qu'en réalité, ils ne prennent pas les points de ton squelette pour les retranscrire sur un avatar, que ce soit les avatars Xbox ou un avatar voilà, maison. C'est vraiment la transposition de ta silhouette à l'écran, et donc c'est du 1 pour 1. Quand tu bouges, ça bouge, etc. Et donc tu as par exemple des exercices de yoga dans lesquels tu dois positionner vraiment tes bras et tes jambes d'une certaine manière, et tu vois que t'es pas positionné correctement, tu vas lever un petit peu ton bras, baisser l'autre, tu peux vraiment ajuster. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce jeu tu ne peux pas tricher du coup. Tu peux pas te reposer un moment et moins lever les jambes. Si par exemple il y a un exercice où tu dois lever les jambes et que tu les lèves un peu moins d'un seul coup sur la deuxième partie de ton exercice, t'as ton coach qui va te dire plus haut les jambes.
Mais est-ce que justement, est-ce que tu es bien guidé? Est-ce que les exercices sont intéressants?
Oui.
Est-ce qu'il y a une progression qui est prise en compte?
Alors,
est-ce que tu as mal aux jambes, Julo, maintenant?
Alors oui, alors je me suis vraiment défoncé les cuisses. Je te jure, le lendemain, j'ai failli me casser la gueule dans les escaliers.
Donc ça marche.
Ouais. Donc ça marche, oui, parce que t'es obligé donc de suivre, tu peux pas tricher. Donc quand tu fais tes exercices, ça fonctionne très très bien. Après, ce qui va manquer au jeu, c'est plus la façon dont celui d'Electronic Arts arrive, par exemple, à te donner envie de continuer. Là, les exercices sont peut-être un peu moins nombreux, peut-être un peu plus efficaces. Il y a plus de yoga, il y a plus de choses comme ça.
Tu peux te faire un programme.
Et tu peux te faire un programme, mais t'as pas beaucoup de choix de personnalisation dans les programmes, en fait. D'accord. Tu peux choisir parmi différents programmes selon ce que tu veux faire, maigrir, te muscler, etc. Mais prendre du poids si tu veux, Traz.
De la masse.
La masse musculaire.
Voilà. Donc ça fonctionne bien, c'est intéressant. Il y a peut-être pas énormément de contenu comme ça va être le cas sur le.
Non mais c'est effectivement une bonne question. C'est plutôt orienté yoga, repos.
En fait, c'est orienté comment on appelle ça,
fitness, gym tonique, assouplissement, voilà. Relaxation, ouais, des trucs comme ça.
Oui, c'est ça. C'est la deuxième partie. Donc effectivement, t'as tout ce qui est vraiment tonique et ce qui va être yoga. Voilà.
D'accord. Donc c'est plutôt sur la
étirement,
la tonicité plus que prendre du poids ou maigrir.
Ah, tu peux maigrir parce que tu peux concentrer tes exercices sur les choses où tu vas devoir faire beaucoup de cardio. Tu peux te muscler aussi, il va se concentrer à ce moment-là sur les exercices où tu dois faire la planche, le machin, etc. Que tu sens vraiment très très vite dans tes muscles. Donc vraiment, c'est efficace. L'interface est super bien foutue. Et donc c'est un très bon jeu à partir du moment où on peut avoir au moins 2m50.
D'accord.
Et de la place également, parce que ça on le dit pas assez, il y a la profondeur, mais il faut avoir quasiment la même chose en latéralité.
Bah oui.
Ok, et bah merci Julo, tu vois ce que tu as
raté. Un grand salon, je sais très bien. Mais moi j'attends le titre d'IA où je pourrais l'utiliser.
Où il n'y a absolument pas de yoga.
Avec la PS3. Ouais. Avec les
capteurs apparemment sur PS3, il est beaucoup mieux. Ouais. Nous on l'a reçu sur Kinect, Xbox Kinect. La reconnaissance de mouvement est beaucoup moins bien, mais le jeu est beaucoup plus complet et plus
riche,
motivant
en fait.
Ouais.
Bon, je désespère pas de faire du fitness dans mon salon. Donc
tu vas y arriver.
Il faut que tu déménages et ça ira.
Promis.
Allez, pour conclure ce podcast, Julo, est-ce que tu pourrais me prêter ton téléphone, s'il te plaît?
Oui.
Voilà. Alors, ami qui avait la vidéo, je tiens. Oh, regardez. Voilà. Donc c'est un iPhone. Donc c'est la modernité. Et bien voilà. Comment on fait les notes de podcast.
Plus le droit de passer d'examen pendant 5 ans.
Plus besoin d'iPad, plus besoin d'iPhone, etc. Le bolivier post-it caché derrière le truc. Merci Julo pour
c'est que tu as une appli post-it.
Je suis un roi de l'anti-sèche, vous savez pas, mais
la science doit savoir mêler le passé et la modernité.
Voilà.
Bravo.
C'est un art, bravo.
En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour ta présence dans ce podcast 162.
Ça en fait, dis donc, 162.
Mais oui, quand même, toutes les semaines, fidèle au poste.
Bravo.
On se reverra dans les LCI Game Club et on te suivra aussi dans
vous êtes
plein écran.
Toutes les semaines.
Qui
en podcast.
C'est ça? C'est toutes les semaines?
Toutes les semaines, c'est même rediffusé tous les jours et disponible sur iTunes. Vous tapez plein écran et vous allez trouver. Même dans Google, vous tapez plein écran, c'est le premier truc qui tombe.
Et
formidable.
Ben eh ben merci beaucoup en tout cas à toi Guillaume, merci à tout le monde d'avoir fait revivre l'actualité du mois de novembre, vous l'avez compris, un podcast
chargé.
Un petit peu long car actualité chargée en cette fin d'année. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, de nouvelles surprises, mais d'ici là vous le savez, dans le forum vous pouvez d'ores et déjà commenter et souligner quels sont les points d'actualité qui vous ont marqué. Vous, on se donne rendez-vous mercredi prochain, fidèle au rendez-vous. D'ici là, jouez bien et portez-vous bien. Ciao!
Salut! Ciao.